Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast aujourd'hui. Je sais même plus quel épisode du Smart Training Podcast. Pour la petite anecdote, c'est le deuxième podcast que je tourne aujourd'hui. Donc j'espère que je vais être réactif et que j'arriverai à poser des bonnes questions, que je vais pas me fatiguer. Mais en tout cas, aujourd'hui, je reçois Mathieu Lamère. Je t'appelais comment? Kof?
Non, ouais, Mathieu, c'est bon.
Mathieu, c'est pour l'histoire, c'est un copain à moi que j'ai rencontré en STAPS, donc ça date un petit peu, puisque les années passent et on s'en rend pas compte, on a déjà 25 ans.
Des fous.
Mais en gros, c'est. Moi, je vais. Pour moi, tout le monde est prêt. Tu vois, aujourd'hui, je fais plus de distinction prépa physique, coach, tout ça. Pour moi, on est tous prépa, coach, on travaille dans le même milieu, même si on a des publics différents et des missions différentes. Mais voilà, pour la faire court, c'est un coach prépa, entraîneur, qui à sa propre boîte aujourd'hui, en tout cas qui s'est lancé dans le monde du coaching et qui a un cursus qui est un peu comme le mien et un peu comme beaucoup d'entre vous qui écoutent, c'est-à-dire universitaire, etc. Et je trouvais ça intéressant de réaliser un podcast avec lui pour qu'il nous donne un peu son retour parce qu'il n'a pas fait les mêmes formations que moi précisément, il n'a pas le même parcours, il n'a pas le même recul et puis il a des projets différents. C'est quelqu'un qui a bien évolué, je pense. En vrai, de vrai, tu as quand même vachement évolué depuis la licence STAPS, tu as fait beaucoup de choses, tu t'es formé, etc. Donc c'est cool de te recevoir, merci déjà.
Yes, bah merci à toi pour l'invitation.
Yes. Alors on va commencer comme d'hab, dans tous les podcasts que je fais, avec un interviewé, en tout cas un invité. Est-ce que tu peux nous faire un tout petit background, c'est-à-dire d'où tu viens, comment ça se fait que tu es dans le monde de l'entraînement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qui t'a amené à aller en STAPS, tu vois, ce genre de choses, et aller jusqu'au master, quoi.
Yes, pas de souci. Bah, du coup, comme tu as dit, moi je suis coach sportif et préparateur physique, mais en tant qu'indépendant.
Ouais.
Du coup, j'ai commencé le parcours STAPS par une licence entraînement. Donc, on a fait notre licence ensemble.
Ouais.
Du coup, je viens de Lesneuvin, c'est une petite ville à côté de Brest. Enfin, on a fait notre licence à Brest ensemble. Après, moi, je suis parti en master EOPS sur Strasbourg. C'était plus avec le volet entraînement, sport, santé. Enfin, en gros, c'était un peu leur spécialité.
Ouais.
C'était pas que optimisation de la performance. Donc voilà, j'ai été jusqu'au bac plus 5 dans le cursus STAPS. Après, je me
Ouais.
suis dit, bon, la thèse, non,
Non.
c'est mon mémoire, c'est déjà suffisant, on
Tu
va
dis
pas.
ça, peut-être que tu reviendras sur une thèse un jour, hein.
Peut-être, on sait
On
pas.
sait
Faut
pas.
ne jamais dire jamais.
Non.
Mais du coup, voilà, j'ai fini mon master en juin dernier et en juillet de l'année dernière, donc le 1er juillet 2022, j'ai lancé ma micro-entreprise. Donc je me suis
Ouais.
lancé en tant que coach indépendant. Et donc là, maintenant, ça fait plus d'un an que je suis à mon compte.
Ok, c'est cool. Juste avant d'arriver en licence, toi t'as collège-lycée normal, mais comment ça se fait que tu sois allé en STAPS? C'est une passion pour le sport, enfin, tu savais pas trop ce que tu voulais faire, comment ça s'est.
Ok, ouais, alors pour la petite anecdote, au début je voulais pas aller en STAPS, je voulais devenir ingénieur comme tous mes cousins. Au
Ah
final,
oui,
ça a changé un petit peu.
d'accord.
Et donc j'ai mis des IUT, des choses comme ça, sauf que j'ai mis STAPS au cas où. Je me
Ouais.
dis, bon, c'est vrai que j'ai quand même un attrait pour ça.
Ouais.
Sauf que pas le choix, fallait mettre STAPS en premier. Nous, c'était sur Parcoursup
Ouais.
ou je sais pas quoi. Et du coup, je suis pris en STAPS et je me dis, en fait, non, ingénieur, c'est pas pour moi. Je veux
Ouais.
devenir kiné.
Ah oui, ok.
Je fonce en STAPS. Au final, en première année, je voulais faire kiné. Avant de recevoir les résultats du premier semestre, j'avais de façon pas les notes pour aller au concours kiné. Et
Ouais.
je m'étais dit, en fait, non, c'est pas le métier que je veux faire. Je veux faire commando parachutiste.
Ah oui, ça, t'as une
Voilà,
réflexion.
ouais, je suis pas arrivé en dire, je voulais pas être coach sportif de base.
Ouais.
C'est que bah, le projet il a vachement, vachement changé. En fait, bah, c'est aussi dû au fait des personnes que j'ai pu rencontrer sur mon
Ouais.
parcours. Mais voilà, donc au début c'était ingénieur, puis kiné, puis commando. Au
Ok.
final, commando, je pouvais pas, j'avais une scoliose à 0,5 degré de trop, donc je pouvais
Ah,
même pas faire tout ce qui est
les facteurs
commando.
arbitraires là comme
Voilà, là
ça.
c'était ciao. Et du coup, bah, après, c'est là où je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire?
Ouais, et l'entraînement est arrivé à toi. Et
Ouais, c'est ça, et
toi, tu
puis.
étais déjà pratiquant avant de bah, tu as fait du hand, mais
Ouais.
est-ce que c'est à ce moment-là que tu as découvert aussi tout l'aspect entraînement, on va dire type musculation, qu'on peut orienter prépa physique, tu vois, ou avant déjà, tu étais déjà un peu là-dedans?
Bah, on va dire, j'ai commencé la salle de sport un peu comme tout le monde. Ça devait être sur fin d'année de terminale et après bah, quand je suis arrivé à la fac sur Brest.
Ouais.
Donc c'est là où j'ai commencé à m'entraîner. Bon, on a fait plein de séances ensemble
Ouais.
aussi. Mais c'était pas du tout un entraînement basé sur la préparation physique ou sur des choses comme ça. C'était plus moi à titre de développement, on va dire développement physique.
Ouais.
C'est là aussi bah, on a fait pas mal d'erreurs, ça on pourra peut-être revenir un peu là-dessus, mais voilà, c'était ma manière de m'entraîner maintenant a bien changé, les choses ont changé, je pense, avec le temps, les
Ouais,
formations et.
normal. Après, je pense que à l'époque, on était aussi beaucoup. Enfin, je parle pour moi, mais l'entraînement, c'était beaucoup orienté bodybuilding. parce que prise de masse musculaire, parce
C'est
que
ça.
c'était un peu l'âge aussi, vous étiez un peu sur ce délire-là. Puis après, il n'y a pas d'âge, hein. Chacun ses objectifs. Et c'est, je pense qu'on est tous, même si on s'entraîne aujourd'hui de manière différente, on a tous dans un coin de notre tête cette volonté aussi de proposer un physique qu'on peut, on va dire, athlétique au maximum. En tout cas, on fait quand même du sport à un moment pour être en forme physiquement. Donc
Bien sûr,
ça a
totalement.
évolué, mais en vrai, on a des objectifs qui sont pas si éloignés que ça. Ok. Si on doit faire un petit débrief de ton parcours en licence à Brest, je pense que c'est un peu le résumé pour toutes les personnes qui veulent aller dans un cursus universitaire. Toi, tu as bien aimé la licence, qu'est-ce que tu en as pensé? Et c'était quoi pour toi les avantages, les limites, tout ça?
Ouais, alors franchement, moi je retire quand même un très bon souvenir de la licence. Bon, déjà, c'est un peu les années universitaires aussi, hein.
Oui.
Ça change, on va dire, des bacs généraux, où
Voilà.
voilà, t'es déjà plus spécialisé. Bon, la première année de STAPS, c'est pas la meilleure, mais parce qu'elle se veut très générale,
Ouais, puis
on va
il
dire.
faut sélectionner les gens aussi.
Voilà, faut sélectionner, mais je pense que c'est comme la L1 un peu
Voilà.
dans tous les autres cursus. Donc la L1, on va dire moins bien, mais après, dès la L2, donc nous, on était spécialisés dans l'entraînement sportif. Et c'est là où, bah, au fur et à mesure, tu as beaucoup plus de matières, on va dire, qui deviennent plus concrètes, c'est beaucoup
Ouais.
plus intéressant. Même, j'ai trouvé aussi que les profs, enfin, le rapport que tu as avec les profs changeait quand tu arrivais en L2. C'est qu'en
Ouais.
L1, c'est plus, bah, eux, ils sont là aussi pour faire le tri, c'est normal, tu as 600 personnes, tu ne pouvais pas mettre 600 en
Ouais.
L2. Et alors que du coup, quand tu arrivais en L2, on va dire, bah voilà, tu avais vraiment tes profs, ils étaient là pour t'enseigner ce qu'ils savaient. Avec le but, bah, du coup, de développer nos compétences, nos
Ouais.
savoir-faire. Et ça, j'ai vachement aimé, parce que voilà, t'as plus sur. Enfin, je trouvais que t'avais pas trop ce rapport scolaire. Alors, peut-être avec certains profs, bien sûr, toujours des exceptions. Mais vraiment, t'es là, bah, t'écoutes les cours, ils te partagent, en fait, leur savoir, leurs choses, pour t'améliorer, tu vois. Ça, c'est
Ouais, je suis
vraiment
d'accord.
ce que j'ai aimé. Après, bah, c'est comme tout, il y a des matières qui sont plus intéressantes que d'autres. Après, je pense que c'est aussi. Propre à chacun par rapport à ce qu'on veut faire, à l'âge qu'on a aussi, on
Ouais,
n'est pas
complètement.
toujours intéressé par certaines choses.
Ah, c'est clair. Tu vois, je me dis en plus que enfin, le parcours entraînement sportif, il est quand même encore assez général parce que ça forme des entraîneurs, ça forme pas que des coachs sportifs, prépa physique, ça forme aussi d'autres types de professionnels du sport. Moi, je trouve que, tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, je trouve que la licence, elle est, comme tu as dit, c'est finalement avec du recul, c'est intéressant. Sur le moment, des fois, forcément, ça paraît assez rébarbatif, mais je pense que la L1, finalement, c'était de l'année qui est la plus sous-cotée parce que c'est beaucoup de bachotage, comme tu dis, faut écrémer et. Mais en même temps, c'est une année où, enfin, tu vois, l'anatomie, tout, c'était bonne base. Et moi, je pense qu'à l'époque, je ne l'ai pas pris. Alors, j'étais déjà hyper à fond et je trouvais ça hyper intéressant. Mais je n'avais pas conscience de l'intérêt, tu vois ce que je veux dire,
Ouais, bien
de
sûr.
l'importance de certaines matières. Par exemple, j'allais en bioméca et je me disais, ah, purée, il va y avoir. Enfin, c'est un peu lourd, quoi. Et on est vendredi matin, ça fait un peu chier.
Bioméca, j'étais à deux cours. Là, c'était.
C'était pas forcément. On n'avait pas pris la conscience, toute la mesure de l'importance dans notre métier après, tu vois. Et je
Ouais.
trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas réussi. Soit nous, on n'était peut-être pas assez matures, soit peut-être les cours n'étaient pas assez didactiques ou je ne sais pas, faits de manière à ce que ce soit intéressant vraiment, tu
Mais
vois.
parce que c'était peut-être un peu trop aussi théorique, c'est que tu voyais la biomécanique, tu voyais vraiment sur les notions de biomécanique, tu voyais
Oui,
pas, c'était
c'était pas
pas vraiment
appliqué.
appliqué au mouvement, connaître tes
Ouais.
bras de levier, les choses comme ça. Mais en même temps, c'était la L1, ça se voulait aussi
Ah, général,
ouais,
oui,
général, un peu pour
c'est.
tout le monde.
Ah, c'est
Mais c'est
évident.
sûr que non, c'est des bases qui sont importantes. Bah, c'est comme après pour les formations privées qu'on a fait, les bases de la licence nous ont permis, en fait, de comprendre beaucoup mieux les formations, de
Ouais.
pouvoir aller plus loin. Et je pense que sans ces bases, ça aurait été beaucoup plus dur aussi.
Ouais, complètement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est intéressant. D'ailleurs, tu es passé sur un master EOPS. C'était EOPS le nom de ton
Ouais, c'est
master, je crois.
ça, et hop.
Après, chaque master a une clivance prépa mentale, réa, prépa physique, enfin bref, tout ce qu'on veut. Tu as été à Strasbourg, pareil, 2 ans. Qu'est-ce que tu en ressors de ce parcours en master?
Alors ça, sur le master, autant la licence j'ai bien aimé, le master j'ai pas du tout apprécié. Je trouve que c'était plus de la perte de temps. Parce qu'en fait, le master se veut aussi très recherche scientifique.
Ouais.
Le but c'est de te montrer, en fait, la recherche, de comprendre aussi les intérêts. Et ils veulent, en fait, te pousser là-dedans pour, en fait, faire de la recherche plus tard.
Oui.
Nous, c'était très peu terrain, c'est qu'on avait très peu d'interventions terrain. Donc forcément, en fait, il y avait un fossé énorme entre ce qu'on voyait dans la littérature scientifique et sur ce qu'on pouvait mettre en place sur le terrain.
Ouais.
Mais après ça, je pense que c'est commun à tous les masters. Donc c'est vrai que au niveau des contenus théoriques qu'on a eus, j'en garde pas forcément un trop bon souvenir parce qu'en fait, j'utilise pas grand-chose. Le point positif, c'est que quand même ça m'a familiarisé avec la recherche scientifique. Ça, je pense, c'est toujours intéressant de comprendre, savoir comment lire une étude, savoir comment faire des recherches. Parce que là, à l'heure actuelle, j'en fais plus beaucoup, mais c'est toujours des bonnes bases
Ouais,
et que je
complètement.
sais que plus tard j'en aurai besoin. Donc ça, c'est cool d'avoir eu ça parce que contrairement à la licence, on ne voit pas du tout
Non, complètement.
cette partie recherche, on va dire. Après, là où ça m'a le plus apporté, je pense, c'est sur les gens justement que j'ai rencontrés à Strasbourg, notamment les stages que j'ai pu faire. C'est là où est né mon projet actuel et je pense, ouais, cet attrait pour le projet que j'ai fait. Et après, par contre, aussi sur ces 2 ans-là, c'est là où, bah, comme tu disais, on a pas mal évolué depuis la licence. Et que c'est vraiment, bah, j'ai pris en maturité. Là, j'étais plus en mode, bah, j'apprends un cours pour apprendre un cours, mais j'ai vraiment en fait découvert une passion. Ça s'est mis un peu en plus des cours, donc c'était pas les cours qui m'ont donné ça, mais ça m'a donné en fait l'envie d'aller plus loin, de vraiment creuser un sujet. Et voilà, c'est un peu ce que j'en retire.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est pareil, c'est plus la méthode. On parle de méthode. Finalement, on n'a pas fait le même master, mais on en ressort la même chose, c'est-à-dire la
C'est
méthode
ça.
scientifique. Parce que dans. Alors, tu vois, mais j'ai un peu plus de. À la sortie du master, surtout en fin de master 2, j'étais un peu critique vis-à-vis du master en mode ouais, on fait beaucoup de choses qui servent pas à grand-chose. Et maintenant que je suis sur le terrain, en fait, je me rends compte que c'était quand même assez intéressant et que, voilà, comme tu dis, il y a peut-être trop de distance entre le terrain et la recherche, mais que justement apprendre à comprendre comment comprendre cette science-là et réussir à l'appliquer, c'est l'enjeu un peu de tout un chacun. Et comme tu dis, que ce soit dans le coaching, dans le sport perf, dans le sport santé, finalement la science c'est censé être un appui pour guider nos pratiques. Donc nous on a la chance d'avoir des ressources, comme tu dis. Moi c'est clair, je passe pas tous mes jours sur PubMed à regarder des trucs parce que finalement ça prend tellement de temps, autant aller regarder quelqu'un qui lui a fait ces recherches-là et qui va donner la
C'est
bonne
ça,
info.
voilà.
Maintenant c'est cool parce que du coup je pense qu'on a le recul pour juger qui est compétent pour te donner des infos ou pas. Et si on doit les vérifier, comme tu dis, bah, on peut aller vérifier par nous-mêmes. Donc ça c'est Je suis assez d'accord avec toi, c'est intéressant. Comme tu as dit, tu as fait des stages, que ce soit en licence ou en master. Est-ce qu'il y a un des stages ou des choses que tu en ressors de positif?
Alors c'est vrai que les stages en M1 c'était un peu tronqué parce que il y a eu le Covid qui est arrivé. Donc en fait j'ai fait
L'année
trois,
Covid.
ouais, l'année Covid, cette fameuse année. Mais en fait c'est surtout que je voulais moi faire un stage, pardon, dans une salle avec un indépendant. Donc en fait je me suis retrouvé dans une box de CrossFit. Alors c'était bien parce que j'avais beaucoup d'a priori aussi sur le CrossFit. Enfin pour moi c'était, tu vois, les tractions ou les gens qui faisaient du keeping, tu me demandais qu'est-ce que c'était, sans en fait connaître vraiment la discipline, on va dire. Et en fait, c'est là où j'ai vu aussi l'enjeu. Au début, je voulais en fait ouvrir une salle de sport plutôt commerciale avec un collègue de licence. Et en fait, le gérant de la salle, il m'a bien fait comprendre que c'était impossible. Mais du coup, ça aussi, j'ai pris des bonnes claques avec lui en stage, en façon de parler. Mais ça m'a vachement fait avancer. Enfin, ouais, j'ai plus compris un peu les choses. Et du coup, ça, c'était intéressant. Bien que c'était court, après, pendant le Covid, je pouvais quand même aller m'entraîner là-bas. Donc, ça m'a initié sur l'haltérophilie. J'ai continué après, je me suis inscrit dans un club d'haltéro en M2. Et voilà, c'est, je pense, ça a été le début d'un peu d'une nouvelle façon de voir les choses, d'une nouvelle façon de s'entraîner. Je suis pas partisan du CrossFit, j'en fais pas non plus. Mais en fait, ça, ouais, ça m'a ouvert et ça m'a changé un peu la pratique bodybuilding, si on peut dire, qu'on avait en entraînement, et voir justement que le CrossFit, ça a plein d'aspects positifs. Tout n'est pas bon à prendre, mais c'est comme partout. Donc après, c'est savoir comment nous on l'intègre, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse, on va dire. Mais ouais, non, c'était, je pense, surtout d'un point de vue humain, c'était un stage super intéressant, même s'il était très court. En fait, c'était, ouais, la genèse du projet, quoi.
Ouais, c'est clair. Et tu vois, c'est marrant ce que tu dis sur le CrossFit, parce que c'est pareil, je crois qu'on avait le même avis, les mêmes a priori. Et c'est vrai que j'ai écouté pas mal de gens en parler, je me suis renseigné aussi sur ce que c'est vraiment le CrossFit. Et c'est, je pense à les aspects négatifs qui sont inévitables, à savoir, il y a des dérives avec peut-être des gens qui vont aller faire du CrossFit et qui vont se blesser parce que c'est pas bien coaché, parce que c'est trop général et pas assez individualisé et que c'est pas possible quand il y a trop de monde dans une boxe. Mais par contre, c'est vrai que ça, je pense, ça a mis un coup de projecteur sur les pratiques athlétiques, haltéro, gym, tout
Ah,
ce qui
bien
nous sert en
sûr.
fait en tant que coach, quoi.
C'était un élan sur toutes ces pratiques. Hein. Moi, mon coach d'haltéro disait ça. Ça a ramené un nombre de licenciés dans les clubs d'haltéro. L'haltérophilie était vraiment en baisse. Et oui, ça a ramené, on va dire, un peu de renouveau sur cette pratique. Et comme tu disais, pour rebondir, oui, il y a des dérives dans le CrossFit, mais on va dire c'est partout pareil. En général, c'est parce que c'est un problème d'accompagnement, d'encadrement des personnes.
Coaching.
Comme en salle de sport, il y a plein de dérives. Il y en a qui sont peut-être laissés pour tout seul dans la salle, qui font n'importe quoi, qui pourraient se blesser. D'autres qui peuvent être mal
Ouais, c'est
accompagnés, ça
clair.
dépend. Et le CrossFit, non, je pense qu'il y a plein de choses ultra intéressantes. Et surtout, le mieux avec cette discipline, je trouve, c'est que ça a un peu, on va dire, remis en cause le phénomène d'interférence.
Ouais, c'est vrai.
On disait ça, oui, alors si tu veux faire le footing, il faut le faire genre le lundi, après tu t'entraînes le mardi, tu peux pas faire les deux. CrossFit, ils se sont dit, quand même, c'est peut-être pour vulgariser peut-être un peu trop, mais ils se sont dit, fuck, on fait tout en même temps.
Ouais, on va voir ce que ça
Voilà,
donne.
on peut faire du cardio, on peut faire de la force, on peut faire de l'explosivité. Et au final, on regarde, les mecs sont quand même très 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 polyvalent.
Ils sont
C'est
forts, ils sont au stock et ils ont un cardio qui est plutôt bon pour
C'est
parler
ça.
à la norme.
Ils maîtrisent plein
Ils
entre
sont très
les
bons
mouvements
justement.
d'haltéro, de gym. Ils
Ils
ont
sont
des articulations en général quand même
bonne santé, ils
en
sont
très bonne
complets.
forme. Voilà. Sauf les personnes qui se blessent, mais c'est comme pour tout. Et c'est les articulations qui ne vont pas à la
Ouais, je
pratique
suis
et pas
d'accord.
l'inverse. Mais
Ouais, je suis d'accord. Et puis en fait, de ce que tu dis, c'est intéressant. Après, il y a forcément, on a l'image aussi du crossfitter qui fait les CrossFit Games et qui est monstrueux. Et c'est peut-être pas la représentation parfaite de vraiment ce que c'est une boxe. C'est pas que des mecs de 90 kilos secs, gorgés, qui courent, qui sautent,
Et bien sûr.
qui épaulent deux fois leur poids de corps, je sais pas. Mais il y a aussi un CrossFit tout public qui est peut-être plus adapté à tout le monde aussi. Je pense qu'il faut sortir de cette idée-là. Par contre, tu vois, une fois, j'entendais Olivier Bollier dire que pour lui, le CrossFit, c'était le sport parfait pour l'entraîneur. Que par exemple, un préparateur physique, s'il veut devenir un meilleur préparateur physique, peut-être que faire du crossfit, c'est intéressant parce que ça mélange de l'haltéro, des activités gymniques, du bodybuilding, de la course. Et que finalement, pour lui, c'est bien, c'est intéressant. Est-ce que toi, tu trouves que c'est... Enfin, tu partages ta vie là aussi?
Alors oui et non, je pense que ouais, c'est très intéressant parce que déjà bah, ça te force à maîtriser un panel de mouvements
Ouais.
énorme. Je pense que le CrossFit n'y a pas plus riche en termes de mouvements,
Ouais.
comme on dit, entre la gym, l'haltéro, tous les autres mouvements qu'on peut avoir. Donc déjà d'un point de vue technique, apprentissage, ça permet en fait de développer beaucoup de skills. Après maintenant, c'est pas parce qu'on ne fait pas de CrossFit qu'on ne sera pas un bon préparateur physique.
Oui, évidemment.
Et c'est qu'il y a des choses très bonnes à retenir et qu'il faut pratiquer, il faut s'inspirer. Je pense qu'il y a beaucoup de choses là-dedans à prendre. Mais en même temps, on peut, en fonction des personnes qu'on a en prépa physique, du contexte, des choses comme ça, on ne peut pas non plus faire du crossfit à tout le monde. C'est que crossfit, ce sera beaucoup des mouvements d'haltéro, snatch, clean and jerk. Mais en général, quand on va faire de la prépa physique, tu ne vas pas faire des snatchs complets.
Ouais,
Tu vas
évidemment,
faire
un
des snatchs
semi-technique.
ouais, semi-techniques, départ au-dessus des genoux, des choses comme ça. Donc en fait, encore une fois, c'est toujours pareil. C'est une bonne discipline. Mais comment on adapte cette discipline à nos besoins, aux besoins des athlètes qu'on a ou des personnes qu'on a en
Ouais,
coaching?
évidemment.
Et ça, je pense, c'est le plus important.
Ah, c'est clair. Et puis surtout que des fois, tu as un peu. Alors, moi, je l'ai vu un petit peu dans le sport. Alors, je vais faire une généralité qui est fausse. Donc, enfin, ce que je veux dire, c'est pas une généralité plutôt. Il y a aussi certains clubs. Vu que le CrossFit est arrivé, on a tu vois, des équipes qui ont dit, OK, bah, on va envoyer nos équipes faire de la prépa physique dans une box. Et c'est le gérant de la box qui va faire la prépa physique. Donc, en fait, il fait faire du CrossFit à des handballeurs, du CrossFit à des basketteurs, comme si c'était un outil de prépa physique. Et en vérité, c'est un sport en tant que tel. Le CrossFit,
C'est ça.
c'est comme si, enfin, jamais ça viendrait à l'esprit de quelqu'un de dire, OK, pour vous préparer le handball, on va aller faire du foot. Enfin, à part si on extrapole et qu'on dit que diversifier, c'est important. Et tu vois ce que je veux dire? Et je
Ouais.
trouve que le CrossFit, les outils sont intéressants, mais la méthode n'est pas forcément adaptable à tous les sports. Après, il y a des trucs, tu vois, les EMOM, AMVRAP, il y a des trucs qui sont intéressants à apprendre aussi, hein.
Il y a
En
beaucoup de choses.
vrai.
Non, non, c'est bien. Et à la limite, emmener une équipe, je sais pas, d'handballeurs dans une box de CrossFit. Si les handballeurs n'ont aucun renfort, qu'il n'y
Oui,
a
voilà.
personne dans le club, à la limite, je trouvais ça intéressant parce que
Ouais.
ça va faire les bases.
Ouais.
Encore une fois, c'est qu'on va travailler sur les bases.
Ouais,
Maintenant, si on
complètement.
veut faire de la prépa physique vraiment plus individualisée, plus poussée, qu'on va chercher vraiment des adaptations précises, oui,
Le CrossFit sera pas
faire que
adapté.
du crossfit ne sera pas adapté, mais
Ouais.
comme faire juste du renforcement musculaire ne serait pas non plus qu'adapté,
Oui, c'est un mélange.
parce qu'il faut choisir en fait ce qu'on veut faire pour avoir les signaux d'adaptation. Mais non, je pense que ça peut être une bonne base, mais encore une fois, bah, je pense qu'on va le dire souvent, mais ça dépend du contexte,
Ouais,
quoi.
je suis complètement
C'est
d'accord.
contexte dépendant
Ouais,
tout le
c'est
temps.
clair. Et du coup, après, t'as fait de l'haltéro.
Ouais.
Pourquoi déjà? Enfin, quelle était l'idée derrière et qu'est-ce que t'en as ressorti? Et aujourd'hui, où t'en es où dans ta pratique de l'haltéro?
Ok, ouais, alors pour l'haltéro, bah, c'était surtout bah, du coup quand j'ai commencé le CrossFit, mon tuteur de stage, on va dire, m'avait dit que si je voulais apprendre l'haltéro, il fallait aller dans un club d'haltéro, il fallait faire que ça. Parce que je pense que c'est quasiment les mouvements les plus techniques
Ouais,
qu'on peut apprendre.
c'est
Hein. On
incroyable.
dirait que ça a l'air simple, mais j'ai passé un an à apprendre l'arraché et l'épaulé jeté pour avoir une
Ouais.
technique à peu près potable
Ouais.
et on est loin d'un top niveau. Mais non, c'était surtout en fait pour apprendre ces mouvements parce que je m'étais dit que ça pourrait me servir pour plus tard, mais que je me voyais pas les enseigner à quelqu'un si moi-même je les maîtrisais pas un minimum.
Ouais, complètement.
Du coup, voilà, j'en ai fait pendant un an. C'était vraiment très intéressant. Première fois que j'allais dans le sport individuel, c'est qu'avant j'ai toujours fait du foot, du hand. Bon,
Ouais.
sauf oui, la musculation en salle, mais on va dire ça c'était
Ouais.
plus de la côté. Mais du coup, je m'étais dit, ouais, faire un sport individuel quand tu es en e-sport co, c'est jamais
Ça va être
simple, t'es
bizarre,
tout seul. Et au final, je suis tombé dans une salle. Weightlifting Strasbourg, c'était vraiment un club de fous, vraiment, t'allais t'entraîner, tout le monde était là, t'encourageait, te donnait des tips. Moi, je débutais, je pense, mes
ouais.
premiers arrachés, le coach, il a dû voir ses yeux, s'il dit, waouh, on va tout reprendre. Mais franchement, je me suis senti très vite à l'aise et Et j'ai vraiment bien apprécié cette discipline. Je m'étais dit, pareil, t'as que deux mouvements, tu vas peut-être te faire chier. En fait, non, parce que vu comment tu passes du temps pour apprendre les mouvements, tous les semi-techniques, tous les enchaînements que tu peux faire, après, bah, toute la partie renfo qui est très intéressante aussi, hein, sur renfo, comment développer la force, l'explosivité, la puissance. C'est déjà, ouais, non, je trouvais que c'était très complet. Donc, j'en ressors d'une bonne expérience là-dessus. Maintenant, j'en pratique plus du tout dans ma façon de m'entraîner actuellement, parce que d'une, j'ai pas trop de temps pour m'entraîner, ça on pourra peut-être revenir dessus plus tard. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien remettre parce que je trouvais ça cool, je trouvais les mouvements et c'était vraiment sympa. Ça change de juste, je sais pas, faire un développé couché, faire un tirage, des choses comme ça. Ça rajoute une variété, mais à la fois c'est très complexe. Donc si t'en pratiques pas régulièrement, bah tu te développes pas au niveau de la technique, voire tu la perds. Du coup, là, si je devais reprendre, ok, j'ai une meilleure base que quand j'ai commencé,
Ouais,
mais forcément, il me faudra un temps
faudra reprendre,
d'adaptation,
ouais,
voilà.
complètement.
Mais non, franchement, c'était top, hein.
Ouais, tu vois, il y a deux choses, je pense au crossfit et à l'haltéro. Moi, c'est deux pratiques qui m'intéressent vraiment de ouf. Enfin, pas forcément pour la prépa physique en tant que telle, mais parce que, comme tu dis, je trouve que, clairement, plus j'avance, plus je me dis qu'un haltérophile de haut niveau, c'est un monstre. Clairement, c'est un monstre. C'est des athlètes exceptionnels, les crossfitters aussi. Mais j'ai un peu tu vois, j'ai un peu la peur de rentrer dans un club de crossfit, par exemple, et de pas être c'est un peu l'impression d'extérieur que j'ai, de pas être au niveau, tu vois ce que je veux dire,
Ouais.
de pas réussir à squatter vraiment très proprement cuit au sol parce que j'ai des problèmes à la hanche, ou je dis en général, là, je dis pas que pour moi, mais de pas avoir les mouvements gymniques adaptés au niveau haltéro, d'arriver et de pas avoir la capacité pour faire un arraché propre en flexion complète, enfin des trucs comme ça, tu vois. Et je me dis, toi qui as été un petit peu au contact comme ça, est-ce que tu penses que c'est une peur justifiée? Enfin, c'est un peu l'impression que ça nous donne de l'extérieur, que c'est des sports qui sont un peu sectaires. Et que si tu rentres là-dedans et que t'es pas au niveau, on va un peu se foutre de ta gueule, et tu vois ce que je veux dire?
Ouais, alors ouais, je pense que ça se comme, enfin en tout cas plus pour le CrossFit, peut-être un sport un peu plus sectaire, mais parce que c'est vraiment aussi une famille. Enfin les gens qui s'entraînent ensemble, ils partagent beaucoup de moments, ils s'entraident, ils se tirent aussi vers le haut. Donc je pense pour ça l'aspect un peu fermé qu'on pourrait voir d'un œil extérieur. Maintenant le fait de pas être au niveau, ça je pense qu'en fait ça dépend tellement de la boxe, des gens avec qui tu seras. Parce que moi en haltéro, je suis arrivé, j'avais un squat qui était pas très propre, même si j'ai trahi un peu ma mobilité de hanche parce que j'étais bien bloqué. Mais voilà, je soulevais pas lourd. On dirait, oui, il y avait rien qui m'avantageait. Et pourtant, bah tout le monde m'a tiré vers le haut. Ils m'ont montré des choses à force de faire des squats, bah cuit au sol, barre haute,
Tu
bah
progresses quoi.
forcément. Si tu travailles ta mobilité à côté, parce que je m'étais beaucoup formé là-dessus, en fait ça s'améliore et tu vois que ça se débloque au fur et à mesure. Le seul truc, c'est en fait faut pas non plus faire un mouvement si jamais on se sent pas à l'aise dessus, si on a mal, faut pas, tu vois, rester buté. Mais ça c'est comme partout. Mais
Complètement.
je pense que non, ce jugement il serait faux. Mais après encore une fois, ça doit dépendre de la boxe et la
Techniquement,
qualité
ouais.
ouais, des coachs qui sont là-bas,
En
quoi.
tout cas, t'encourages les gens à y aller si jamais il y a l'opportunité.
Bah franchement, moi je dis, il faut tester. C'est qu'on peut se faire son propre avis que si on essaie quelque chose. Si on a envie d'essayer le crossfit, faut essayer le crossfit. Maintenant, faut se renseigner sur la boxe, sur ce qui se fait, sur est-ce que les cours sont adaptés pour nous. Voilà, si jamais on sent que quelque chose ne va pas, faut pas aller à l'encontre non plus de notre corps. Pareil pour l'haltéro. Moi j'ai vu des jeunes qui avaient 8-10 ans commencer à l'haltéro. Je me suis dit, punaise, comment tu fais pour garder des jeunes sportifs comme ça pendant 10 ans alors que tu bosses que deux mouvements?
Dans un sport comme ça.
Mais parce qu'en fait, bah, tu as tous les à côté, les moments conviviaux, enfin, en fait, comme un club
Comme un club
sportif, hein,
normal. Et...
tout simplement. Et donc, ouais,
Tu vois, moi j'ai été au contact d'un club d'haltéro là, à Quimper, parce qu'on utilise les locaux d'un ancien club d'haltéro. Et bon, c'était plus d'actualité, c'était un club qui était un peu en partance, tu vois. Mais il y avait un jeune qui venait faire des cours. Et moi, je me suis posé plusieurs fois la question de me dire, mais comment il supporte le fait de... Parce que pour le coup, là, c'était old school. Enfin, c'était vraiment, tu travailles les deux mouvements à côté, ton échauffement, c'est courir dans la salle. Enfin, c'était vraiment pas fun. Et je me disais, c'est dommage parce que c'est une pratique qui est tellement riche et qui peut apporter tellement de choses. Il y a vraiment un travail à faire. Du coup, le CrossFit, je pense, a beaucoup apporté à l'haltéro parce que ça a mis un coup de neuf un peu sur une
Bien
discipline
sûr.
qui était un peu aux oubliettes. Et je pense que ça, c'est hyper intéressant. Et du coup, sur l'aspect haltéro, toi, du coup, qui es aussi ce versant coach prépa physique, est-ce que tu sais, c'est un peu un débat? Il y a quelques années, l'haltéro, c'est devenu l'ultime,
Outil.
l'outil pour développer la puissance et pour faire de l'explosivité et puissance et pour faire de l'athlète le GOAT dans cette discipline. C'était vraiment limite si tu passais pas le diplôme de la fédé latéraux
BF1, là,
au
ouais,
William
c'est ça.
General, bah c'est que t'étais
Ouais.
pas au coach altéro, et bah c'est que t'étais pas un bon prépa physique. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça aujourd'hui?
Moi, je pense que l'haltéro en prépa physique, ça reste quand même surcoté. Alors, attention, tous les mecs
Ça va
de
être le titre du
l'haltéro,
podcast.
ouais, c'est ça, l'haltéro, c'est
Toi, tu l'as vert sur côté,
surcoté. C'est
altéro.
ça, alors que j'en ai fait. Non, mais parce que, en fait, on se rend pas compte, mais l'haltéro, ça demande des prérequis articulaires qui sont énormes au niveau de la hanche, des chevilles, des genoux, des épaules. Et en fait, bien souvent, si on veut vraiment bien bosser l'haltéro, donc entre les prérequis articulaires et la qualité technique du mouvement qu'il faut avoir, en fait, on passera beaucoup trop de temps pour en fait être prêt à faire de l'haltéro, et pendant ce temps-là, on n'aura pas vraiment de résultats. Alors que si on veut développer la puissance d'explosivité, il y a plein d'autres outils qui peuvent être plus faciles d'accès, on va dire, pour l'ensemble des athlètes. Donc si une personne a déjà des bases en haltéro ou au moins les prérequis pour le faire, moi, je serais partisan de « on peut le faire, ça développe plein de choses, vraiment, c'est un super outil. » Encore une fois, ça, c'est un outil. Donc, si la personne n'a pas les prérequis, ne peut pas faire les mouvements, bah, comment on adapte? Est-ce qu'on passe 6, 8 mois à travailler là-dessus parce qu'on est sur un plan de carrière plutôt long, qu'on sait que, par exemple, l'athlète, on va bosser avec lui pendant 3 ans, et du coup, bah, on sait la finalité qu'on veut avoir. Mais maintenant, si on n'est pas sûr que l'athlète y reste l'année prochaine dans la saison, en fait, on aura peut-être formé, enfin, préparé la personne pour le prochain club.
Ouais, c'est clair.
Et tu n'auras pas eu vraiment de gains pendant l'année. Donc, encore une fois, ça dépend du contexte. Pour moi, on a peut-être voulu faire trop d'haltéro en délaissant les autres outils. C'est un outil super. Il faut juste savoir l'utiliser au bon moment et avec les bonnes personnes, savoir qu'est-ce qu'on veut faire, mais sans pour autant négliger tous les autres outils qu'on peut
Ouais, je
faire.
suis
Comme
d'accord.
toi, tu utilises beaucoup aussi dans tes séances, hein.
Ouais, mais tu vois, c'est complètement... En plus, moi, je suis encore moins spécialiste que toi au niveau haltéro. Hein. On en a fait très peu en fac. Derrière, moi, je me suis formé tout seul en regardant des vidéos, en testant sur moi. Et ce que je me suis rendu compte, c'est ça, c'est que, comme tu dis, il faut des prérequis qui sont incroyables. Donc, en fait, encore une fois, c'est un sport, l'haltéro. Donc, pour pouvoir progresser dans un sport, il faut y passer du temps. Et si toi, ton sport, c'est le basket ou c'est autre chose et que ta priorité, c'est ça, bah, tu peux pas allouer suffisamment de temps au reste. Dans une démarche de formation, un centre de formation, ça peut être intéressant, etc. Et encore, je me dis que c'est passer beaucoup de temps sur deux mouvements. Si on parle de l'haltéro pur, c'est-à-dire snatch, enfin épaulé, jeté et arraché dans le format olympique, tu sais, hein, étant,
Ouais.
pour moi là c'est peut-être du temps gâché parce que comme tu dis il y a d'autres outils. En vrai, un épaulé, et si tu peux le remplacer par du trap bar, enfin en termes de vecteur de force, ça va être la même chose et t'as pas forcément besoin du travail balistique. Enfin il y a plein de trucs à
Voilà,
faire.
y a plein d'autres outils. Par contre, là où je pense que l'haltéro, c'est intéressant, et ça, justement, c'est en train de changer. Enfin, nous, on le voyait à Strasbourg, c'est qu'il y a de plus en plus, on va dire, de collèges-lycées
Qui s'en
qui
sort?
font des interventions justement en haltéro, alors qu'avant c'était fermé parce que bah, forcément tu vas faire des sports de force entre guillemets
Ouais, tu vas te faire
et
mal.
tu vas plus grandir,
Ouais,
tu vas être
des
cassé.
conneries.
Donc là les choses sont en train de très bien évoluer là-dessus et ça vraiment c'est super. Mettre de l'haltéro sur des enfants de 10-12 ans, alors évidemment ça sera qu'un tube en PVC, quelque chose comme ça, on va pas mettre une barre,
Oui.
on va pas mettre, on va
On va
pas
pas lui
faire un
mettre son
snatch
poids
à
de corps,
40
non, mais
kilos,
évidemment.
mais par contre du coup ça permet en fait aux enfants de très tôt en fait d'avoir ces prérequis articulaires pour plus tard, parce que bah, si tu sais faire les mouvements d'haltéro, globalement, en préparation physique, tu pourras faire quand même un grand panel de mouvements. C'est que tu serais capable de faire du squat, tu serais
Ouais, c'est
capable de développer militaire.
totalement
Enfin,
raison.
y a tellement de mouvements, mais du coup, pour moi, ça serait plus dans une démarche d'apprentissage plus jeune de mettre ça, mais vraiment des fins d'apprentissage technique, de coordination.
Ouais,
Voilà.
complètement. Après, tu vois, je rebondis sur ça, tu vois, on parle de prérequis articulaire et arrivé vers 16, 17, 18 ans, si t'as pas entretenu depuis tout jeune, tu perds ce que tu n'utilises pas concrètement. Mais il y a aussi, tiens, un moment, on disait, j'avais entendu passer pas mal de gars dire ça, ouais, regarde les enfants, ils squattent complet, ils se posent pas la question, c'est que au sol et il n'y a pas de souci. Après, ça a été montré que c'est pas les mêmes leviers, c'est pas les mêmes composantes au niveau articulaire, donc tu peux pas comparer un enfant en termes biomécaniques avec un adulte. Mais je pense quand même que si, dès tout jeune, t'entretiens, il y a quand même, t'as quand même des choses que tu perds pas, t'as quand même, et moi je suis d'accord avec toi,
Ah
si
mais...
on faisait tous l'haltéro jeune, mais arrivé à 18 ans, on pourrait vraiment plus exploiter
Bah
nos qualités.
en fait, ça sera un gain de temps. C'est que au lieu de perdre 2-3 ans à apprendre les mouvements, avoir les prérequis pour les personnes, ça serait 2-3 ans de développement, arrivé à 17, 18, 19 ans, plus ou
Ouais, c'est
moins.
clair.
Donc non, là-dessus, l'haltéro, franchement, je pense que ça serait une bonne pratique d'haltéro, voire le crossfit, hein, apprendre de mouvements. Enfin, je veux dire, plus on va exposer un enfant à des stimuli différents,
Moi,
le
je suis
mettre dans
d'accord.
différentes positions, en fait, plus il aura potentiellement un panel athlétique, en fait, grand, parce
C'est
qu'il aura
clair.
testé plein de choses. Et non, là-dessus, c'est top. Et tu
Ouais,
vois, pour
c'est bien.
rebondir à ce que tu disais, les enfants, si très tôt, on les sollicite dans des amplitudes articulaires, qu'on les met dans certaines positions, ils vont garder des choses. Moi, je l'ai vu en coaching individuel avec, par exemple, là, j'avais un ingénieur informaticien, 42 ans, qui n'avait pas fait de sport depuis le lycée, globalement. Il a quoi? Il a un boulot très sédentaire. Et quand je lui checkais un peu ses articulations pour une première séance, faire un premier bilan, il avait des articulations de taré. Donc le mec est sédentaire, il bouge pas. Je regarde, il a une épaule, flexion complète, des rotations dans tous les sens, un dos qui bouge bien, des hanches ultra mobiles. Je me dis, qu'est-ce que t'as fait? Et en fait, je me suis rendu compte que suivant les sports que les gens pratiquaient jeunes, en fait, ce mec-là, il a fait de la gym quand il était petit.
Ouais, c'est ce que j'allais
J'ai
dire.
eu d'autres personnes en coaching, j'ai fait de la danse. La personne très souple, des hanches qui bougent super bien. En fait, et c'est là où on se rend compte que même si on n'a pas entretenu, comme très jeune, on a développé un niveau qui était bien supérieur à la moyenne, forcément, le temps, ça diminue,
Mais bon, tu
mais ça
parles.
reste toujours supérieur à la
Ouais,
moyenne. Donc,
complètement.
non, c'est pour ça, chez l'enfant, pour moi, il y a vraiment des choses très
Tu vois,
intéressantes
et
à faire.
c'est, je rebondis. Alors, sur. Putain, j'ai oublié ce que je voulais dire en premier, mais je vais rebondir sur ça. Je suis d'accord avec toi, tu sais, en plus, maintenant, c'est prouvé. La science montre que quand tu es jeune et que tu pratiques différents sports, tu développes tes qualités motrices, ton panel, tu te blesses moins. Même c'est montré que les sportifs ont des carrières plus longues et moins de blessures s'ils ont fait plusieurs sports, alors qu'on tend vers l'hyper spécialisation. Tu fais du hand, à 8 ans, tu
Très
fais du
tôt,
hand et
ouais.
que du hand. Et c'est pas bien, on le sait. Et souvent. Du coup, on envoie les enfants, tu vois, moi je me dis, j'ai des enfants, j'aimerais qu'ils fassent du basket, des conneries, différents sports. Et c'est vrai qu'il y a tellement de possibilités, mais c'est vrai que souvent on dit, la gym, la natation, il y a des prérequis, du coup on peut pas tout faire, tu peux pas faire tous les sports. Et c'est vrai que souvent tu retrouves, tu vois, moi j'ai un exemple tout court, ma soeur, elle a fait de la danse, elle est pas sportive aujourd'hui, mais elle a un grand écart en fait.
Ben.
Parce qu'elle a fait de la danse pendant 10 ans. Tu te dis, mais attends, et toi tu vas galérer, alors que tu es sportif, hein, tu vas galérer pour faire un grand écart parce qu'il va falloir charbonner
Toi,
pour
il faudrait
l'avoir.
un an de travail
Ouais,
et
et c'est
encore,
très
ouais,
sérieux.
et vraiment savoir quoi faire
Voilà.
pour l'avoir, alors
Et
qu'elle, maintenant, l'a
bah
toujours,
oui.
tu vois,
Parce qu'on
c'est.
sait que quand tu es jeune, quoi qu'on en dise, tu es beaucoup plus modulable que quand tu as 25, 30, 30. Du coup, pour moi, c'est hyper important. Et finalement, du coup, l'haltéro serait intéressant de l'intégrer. Je pense que bon, l'école, c'est le meilleur moyen pour pouvoir faire en sorte que tout le monde ait une base. Mais c'est pareil pour, comme tu dis, l'athlétisme, la
Bah tout,
natation.
bah c'est un peu comme sur le modèle anglais, si on change un petit peu, mais nous, comme tu dis, on est dans l'hyper spécialisation très tôt. Voilà, tu fais un sport, on va te mettre dedans et tu vas rester parce que je pense que tu as aussi des enjeux financiers, économiques
Oui, il y a d'autres
derrière
choses.
pour les licences. Mais quand tu vois le modèle anglo-saxon, c'est bah en fait, on te fait faire plein de sports différents quand tu es jeune, on te développe un peu différentes habiletés. Pour qu'après, plutôt vers 12 ans, tu commences à aller te spécialiser dans une discipline. En fait, on a ouvert un peu les stimulus, tu as testé plein de choses. Déjà, ça peut voir est-ce que tu es plutôt fait pour faire tel sport ou tel sport, si on cherche vraiment les viviers pour trouver les élites de demain. Et c'est vrai que ce modèle-là, moi, je le trouve très intéressant, différent d'en France. En France, ça fonctionne aussi, mais voilà, enfin, oui, tu fais un sport quand tu es très jeune, tu as de grandes chances de le faire pendant 15 ans, quoi.
Ouais, c'est
Même si on
clair.
peut changer, que maintenant, il y a aussi peut-être de plus en
Oui,
plus.
ça s'ouvre un petit peu peut-être.
Voilà, faut pas faire une
Non,
généralité
non,
non
non, mais
plus.
bon, c'est vrai qu'on retrouve ça. Et finalement, il y a l'aspect performance, être performant à 20, 25 ans. Mais il y a aussi l'aspect santé, comme tu dis. Au final, le sport, tu vois, là, j'en parlais d'ailleurs ce matin avec Ronan. Il y a une étude, là, j'ai vu une étude sortir sur. C'est pas moi qui l'ai vu, hein, je l'ai vu sur. Après, l'étude, c'est pas moi qui ai été chercher, mais d'un gars qui montrait que quand tu as pratiqué du sport et que tu as une nutrition à peu près adaptée, et durant toute ta vie, tu as entre 15 et 20 ans de vie, enfin, de vie dans des bonnes conditions, genre vers 70 ans, tu vois. C'est-à-dire qu'un gars qui a pas fait de sport et qui a mal mangé toute sa vie, bah, en fait, il a 15 ans de vie cohérente en moins que toi. Et ça, c'est des chiffres. Hein. Pour moi, c'est impensable qu'on se prive de ça, tu vois. Et en fait, le sport santé, pour moi, c'est fondamental.
Ah bah oui, mais
Tu vois?
ça c'est pour la petite anecdote, c'est mon père qui m'a dit ça. Est-ce que tu connais un grand-père qui fume?
Ben non,
Non. Est-ce que tu connais
sûrement.
un grand-père vraiment obèse?
Non, pas trop.
Voilà. Bah c'est parce qu'en général,
Ah,
enfin c'est
sûrement.
voilà, non mais c'est pas pour attaquer quelque chose non plus, mais
Ouais.
ça rejoint le point que tu disais que bah, si tu fais attention à ton alimentation, tu fais un peu de
Ça veut
sport.
pas dire être, tu vois.
Oui, c'est pas être carré non plus tout le temps, faire
C'est la
5
vie,
séances
tu
par
vois.
semaine, voilà, mais c'est juste faire un petit peu attention, prendre du temps en fait, je pense, pour soi, peu
Ouais,
importe
c'est vrai.
l'activité qu'on fait, ça permet d'améliorer la longévité. Après, il y a toujours des contre-exemples, des personnes qui sont
Non
en très bonne
mais
condition, bien sûr, mais c'est sûr que là-dessus, j'ai pas lu l'étude. Mais quand on regarde aussi, quand on fait un peu le constat de ce qu'on voit dans la vie actuelle, je pense que ouais, c'est tout à fait cohérent.
Bah ouais, c'est clair. Et comme tu dis, quand on les voit, ça, c'est un constat un peu triste, mais c'est vrai
Ouais,
que
mais c'est triste, mais en
c'est
fait,
factuel, quoi.
ça reste aussi un peu
Il y a peu de
une
personnes qui ont
réalité.
plus de 90 ans et qui ont pas, qui ont fumé, bu et mal mangé et pas fait de sport toute leur vie, quoi.
Bah ouais,
Après, c'est un
c'est.
choix, hein. Il y en a qui vont dire, mais moi, je m'en fous, je préfère profiter toute ma vie et vivre moins longtemps. C'est
Voilà.
chacun voit midi à sa porte,
Après,
comme
voilà,
on
nous, on dit ça, moi, je suis pas là pour juger, chacun fait ce qu'il veut
veut. Ouais,
aussi. C'est
complètement.
juste, oui, quand on regarde l'activité physique, forcément que
Ah, ça a un impact positif.
ça a des effets positifs.
Ouais, c'est
Moi, je
clair.
le vois tous les jours en coaching.
On revient sur le. C'est bien, ça fait une petite transition, t'as
Ouais, c'est
vu?
ça, ouais.
On revient sur le. Sur le. L'aspect haltéro, vite fait. Tu vois, donc on a parlé un peu d'haltéro, les mouvements complets. Toi, du coup, si t'étais avec un groupe et que t'avais l'opportunité, par exemple, je donnais mon exemple, moi, dans mon club, en gros, avec mes athlètes, j'ai décidé de faire l'haltéro à des. Pour les effets que ça a. On peut parler de plein d'effets, coordination intramusculaire, inter-intramusculaire, les notions de corps, notions de tout. Il y a plein d'éléments positifs à l'haltéro. Moi, ce que j'y vois, c'est surtout développer le plus de vitesse possible sur un vecteur précis, à savoir vertical sur un power clean ou je sais pas. Enfin, tu vois, toi, si tu devais choisir un mouvement semi-technique, plutôt l'arraché, plutôt l'épaulé, qu'est-ce que tu choisirais pour des sportifs
Je pense que déjà j'irai plus sur l'épaulé,
Ouais.
le jeté pas forcément, sauf si on a besoin aussi
Oui.
de renforcer les épaules, surtout l'épaulé, puisque l'arraché déjà, de par la position de base, sera peut-être encore plus technique
Ouais.
qu'un épaulé. Épaulé, ça rejoint en plus un soulevé de terre, on va dire,
Ouais,
sur la
c'est.
position initiale, de le faire en départ au-dessus des genoux, puisque moi c'est ce que mon coach d'haltéro disait, déjà dès que tu es des sportifs, tu fais pas des départs barre au sol, fesses en bas, c'est vraiment tu mets la barre au-dessus des genoux, parce que tu enlèves déjà le passage des genoux, qui est déjà très compliqué, très
Ouais.
technique, donc tu t'enlèves quelque chose, mais par contre tu vas chercher après du coup une triple extension, une vitesse maximale, avec bah, du coup, ça rejoint sur la notion de puissance, parce que tu cherches à la fois à mettre une triple extension très rapide, et à déplacer une charge
Ouais.
la plus lourde possible avec une grande vitesse pour développer la puissance. Donc, moi, je pense que un épaulé départ au-dessus des genoux serait très
Ouais.
intéressant pour ça, et plus facilement applicable pour l'ensemble des sportifs, parce
Ouais,
que tu aurais
complètement.
moins de prérequis
Ouais,
techniques là-dessus.
moi c'est le même c'est l'idée que j'ai eue cette année avec les sportifs, j'ai mis en place quasiment que ça. On a fait un tout petit peu d'arraché avec ceux qui maîtrisaient déjà un peu, mais clairement on a mis quasiment en place que ça parce que comme tu dis, c'est le plus facile à mettre en place rapidement et il y a pas besoin enfin les prérequis articulaires, on a quasiment pas bon les épaules, les coudes, les poignets, mais t'as pas les
Oui,
hanches, enfin
voilà,
les chevilles
c'est.
sont pas limitantes et je pense que tu peux développer vraiment des pics de puissance qui sont importants là-dessus. Et tu vois, j'écoutais une intervention, c'est Romain Guérin, c'est un prépa qui est dans le rugby à Nice, et lui il expliquait que bah, même logique que toi, il disait que pour lui il y avait trop de travail à mettre en place si on voulait exploiter au mieux l'haltéro, pas trop le rapport coût-bénéfice n'était pas intéressant, mais que par contre tu vois comme toi le départ au-dessus des genoux était hyper intéressant aussi parce que tu peux faire départ au-dessus des genoux, tu sais, en dead start là, enfin soit sur des
Ouais.
plots,
Oui,
mais
c'est
tu peux
ça.
aussi le faire avec une prise d'élan qui va te permettre d'avoir un peu une élasticité et du coup d'être vraiment sur les contraintes athlétiques que tu retrouves dans les sports, à savoir il n'y a quasiment aucun sport où tu es que sur une phase concentrique alors que l'haltéro c'est que du concentrique pur, tu vois. Il y a quasiment pas d'excentrique sur l'haltéro que je
Bah,
dis. Sur la chute.
oui, tourner sur les passages.
Ouais, voilà, mais tu n'en auras pas sinon si tu es que sur des mouvements balistiques,
Voilà,
enfin, sur des tirages haut.
si tu veux juste faire un tirage haut, juste un épaulé debout, quelque chose comme ça, tu auras très
Ouais.
peu de parties
Ouais,
excentriques.
c'est clair.
Et c'est pas ce qu'on cherche, parce que ce qu'on cherche, c'est surtout le pic de
Ouais,
vitesse.
c'est clair.
Tu vas pas chercher un pic de vitesse comme ça sur l'excentrique,
Ouais,
sur
c'est
un
clair.
mouvement d'haltéro, ou alors ce serait pas du tout le bon
Ouais,
mouvement
c'est clair.
adapté.
Et c'est pour ça aussi, tu vois, moi, par exemple, avec les athlètes, j'utilise quasiment la notion de chute. On appelle ça un épaulé force. Quand tu es départ au sol et que tu tires et qu'il n'y a pas de chute, je crois que
Ouais,
c'est
c'est
ça.
ça.
Et
Quand t'as pas de
bah,
déplacement de pied, si
y a
tu
tellement, en vrai, il y a tellement de noms aussi différents en fonction des
veux.
groupes.
Même moi, je
Ah
galérais au
putain,
début
j'ai.
entre l'épaulé debout,
Et puis t'as la
l'épaulé
version
puissance,
anglaise.
force, ça va, et
Et
puis.
puis la version crossfit. Enfin, genre.
Et c'est pas les mêmes termes, genre
Oh
un power
non.
clean veut pas dire.
Ouais, c'est ça. Power, puissance. Et attends, si.
Non,
Bah, attends,
non, c'est pas
du
les.
coup, moi, des fois, je
C'est
m'en
un
mêle. Mais
bordel.
bon. En tout cas, voilà, cette notion d'épaulé, moi, souvent, ce que je dis aux athlètes, c'est que c'était Jérôme Simon, le prépa physique, l'ancien prépa physique de Kevin Mayer, le décathlonien, j'avais eu une intervention, il parlait de ça, il disait que pour lui, l'haltéro, c'était super, mais par exemple, sur un épaulé, il voulait pas de chute, parce que la notion de chute, ça fait que ça raccourcit la longueur de levée, enfin, la longueur de tirage, et que du coup, en fait, t'as un levier qui est plus bas que si tu chutes, en fait, t'as besoin de mettre moins de puissance pour lever la barre, et du coup, tu peux aller en dessous et la rattraper.
Bah,
Tu
alors
vois?
ça, oui et non. Oui, je pense si tu maîtrises pas parfaitement les mouvements, parce que du coup, tu vas chercher à compenser via une chute plus rapide, un déplacement des pieds, pour en fait justement passer sous la barre et la récupérer. Alors que par exemple, tu regardes un haltérophile de haut niveau, il aura sa triple extension avec le tirage le plus haut possible avant de passer
avant de
sous la
passer.
barre. Mais ça, voilà, il faut des années d'expérience à
Oui,
pratiquer.
du coup,
On
c'est on en revient
coût-bénéfice.
au même.
Ah, c'est toujours pareil quand on travaille dans les clubs, on n'a pas toujours le temps, le matériel nécessaire pour tout faire. Donc on doit toujours faire des choix, ça dépend du contexte. Mais non, là ce qu'il disait c'était très intéressant. Et parce que sinon, oui, ça te demanderait trop de temps, tu pourrais trop compenser,
Mais
ça
voilà.
fait des compensations supplémentaires qu'il faudrait gommer. Enfin voilà, ça.
Ah, mais du coup, enfin, souvent j'arrive quand même. Puis c'est, enfin, en vérité, c'est moins dangereux aussi, enfin, pour moi, en tant que prépa, à mettre un athlète et lui demander d'aller épauler en restant le plus. Enfin, évidemment, avec une flexion, mais en n'étant pas que au sol, c'est aussi moins dangereux parce que je sais pas trop comment il va tenir son dos, comment est-ce qu'il va tenir le gainage s'il arrive en
Bien
bike, enfin, tu
sûr,
vois.
voilà. Et
Il y a
puis
aussi.
c'est toujours pareil, quand tu cherches à faire de la préparation physique, tu cherches avant tout à pas blesser tes joueurs.
Ah,
Non, mais on
c'est.
en revient à ça. C'est un sportif blessé, c'est un sportif qui ne
Ça a
performe
rien,
pas.
ouais,
Et
c'est
pendant
clair.
ce temps-là, tu vas pas chercher à développer. Non, tu minimises, tu fais au mieux en fonction de ce que tu peux. Mais oui, c'est sûr que si tu dois faire une chute cul au sol,
Ouais, c'est
bah,
clair.
ça rajoute d'un coup les prérequis articulaires que tu n'avais pas forcément sur juste un tirage haut d'épaulé ou juste un épaulé force, puissance, comme on veut, quoi.
Ouais, c'est clair. Ouais, c'est intéressant. Bon, je pense que pour le tour, on a fait un peu un tour complet. Je pensais pas parler de ça, mais du coup, c'est l'occasion. Tu vois, moi, je suis. On en a parlé un petit peu tous les deux avant. Forcément, le courant fonctionnel, même si ça veut un peu rien dire en prépa physique, veut nous orienter vers tout ce travail de barre et haltère, poids libre, kettlebell aussi. Je pense, et là on va parler de prépa physique, mais aussi coaching tout public. Je pense que c'est une base quand même à avoir. Tu vois tous les mouvements polyarticulaires, quoi qu'on en dise, c'est peut-être plus de transférabilité,
Ouais,
transfert.
c'est vrai, c'est vrai.
C'est aussi peut-être plus taxant au niveau énergétique, donc plus intéressant, etc. Maintenant, dans un objectif d'hypertrophie, peut-être qu'une machine sera beaucoup plus pertinente. Pour une personne qui a des problématiques articulaires, peut-être qu'une machine sera plus pertinente. Toi, t'en penses quoi de tout ça? Peut-être de cette approche un peu fonctionnelle, tout barre, tout haltère, et on oublie un peu tout le reste.
Ouais, ça, je pense que nous, enfin, tous les deux, on se rejoint là-dessus. On a déjà discuté en off et on a pas mal évolué là-dessus. Avant, on jurait que par ça.
Ouais, c'est
On dirait
clair.
que c'était que barre, que les haltères, les machines, ça servait à rien, c'était
Ouais.
pas fonctionnel, justement. Alors, au contraire, non. Maintenant, oui, c'est sûr que c'est bien de maîtriser les mouvements, on dirait, polyarticulaires avec des charges libres, type haltères,
Ouais, c'est
barres,
clair.
kettlebell, etc. Mais en même temps, les machines ont un grand intérêt en fonction de la personne, des objectifs que tu veux. Moi, je le vois en coaching. Là, dans le local que j'ai très peu de machines, enfin, j'ai pas de machines à charge guidée, on va dire. Du coup, je travaille essentiellement plus avec des haltères, des barres ou
Ouais.
tout autre petit matériel en attendant. Mais si j'avais un leg extension, les curls, comme je te disais, c'est très facile pour faire travailler les quadriceps, les ischios pour monsieur, madame, tout le monde. Ça enlève les prérequis articulaires. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas les bosser parce que si une personne a un manque, ça peut potentiellement lui causer des torts plus tard. Mais aussi, il faut avoir du résultat rapidement.
Ouais.
Ça, je pense qu'on soit avec monsieur, madame, tout le monde ou des sportifs, c'est toujours la même chose. À un
C'est
moment, pour
clair.
qu'ils adhèrent, il faut qu'il y ait du résultat. Donc, des fois, on ne peut pas faire nous tout ce qu'on veut parce que les gens, ils n'ont pas tout le temps notre logique, ils n'ont pas forcément envie de l'avoir, ce que je peux totalement comprendre. Et du coup, il faut trouver le bon compromis entre les deux. Du coup, tu as des machines qui sont très intéressantes là-dessus. Quand on est sur de la réhab aussi, forcément, sur des mouvements des fois à charge libre, ça peut être plus compliqué que des mouvements d'isolation avec des machines.
Ouais.
Donc, les deux sont très beaux outils. Le plus important après sur des machines, c'est savoir comment on peut régler la machine pour qu'elle s'adapte aux personnes. Est-ce que les courbes de résistance sont bonnes? Parce que là, forcément, les haltères, ça sera la composante technique qui va jouer là-dessus. Mais
Ouais.
c'est peut-être plus facile que de trouver une bonne machine. Parce que des leg extensions, tu en as plein.
Ouais,
Trouver les bons,
adapté.
c'est
Ouais,
faut se renseigner un peu plus, faut
c'est vrai, c'est vrai.
tester.
Ah, je suis d'accord, et tu vois, il y a quelques temps, pour moi, les extensions, c'était à bannir de ma salle parce que ça servait à rien.
Alors que
Et tu vois.
maintenant,
Bah, si je
t'aimerais
pouvais
bien
en
en avoir
avoir
un,
un
tu
qui est
vois.
vraiment efficace, je le
Bien
prendrais
sûr.
parce que si un joueur il a une tendinopathie au genou, bah en fait, enfin rotulienne, en fait c'est peut-être le truc qui serait le plus intéressant pour moi à ce moment-là, au début de la réhab et enfin de la réathlée, et peut-être qu'après ce sera d'autres choses. Mais en tout cas, ouais, c'est clair que finalement, une bonne machine, ça peut être vraiment intéressant pour
En
plein
fait,
de.
encore une fois, c'est que ça te rajoute des outils en plus.
Ouais, voilà,
C'est,
c'était.
faut pas dire, faut faire que ça ou que ça. C'est juste, en fait, plus t'as d'outils et plus tu sais t'en servir.
Ouais.
En fait, plus tu peux offrir vraiment des résultats pertinents aux personnes
Ouais.
parce que tu peux les accompagner au mieux.
Ouais, c'est
Forcément,
clair.
moi, je suis plus bloqué avec l'espace et le matériel que j'ai, mais je peux déjà très bien travailler.
Ouais.
Forcément, si on me rajoute plus d'espace, plus de machines, peux faire encore mieux.
Ouais, c'est clair.
Donc
ouais,
c'est toujours pareil, c'est voilà, ça dépend les clubs, ça dépend du budget, ça dépend de l'espace, le temps qu'on a, s'il faut faire des choix, bah voilà, après ça c'est à chaque je pense prépa au coach de choisir un peu avec quoi il veut travailler, tu vois.
Ouais, c'est clair. Puis c'est comme je dis, c'est dépendant du contexte, encore une fois, ouais. Et des possibilités. Et des fois, tu sais, on a tendance un peu à juger vite. Enfin, moi, c'est vrai que des fois, je suis un peu critique par rapport à ce que je peux voir, en mode, putain, ça peut aller optimal. Et en fait, c'est juste que bah, on peut pas, enfin, tu peux pas faire mieux dans l'état actuel parce que tu arrives à un stade de développement où tu n'as pas accès à d'autres choses et tu peux pas demander plus. Donc, c'est important à tenir compte de ça. Et tu vois, je vais terminer un petit truc sur tout ce qui est haltéro, kettlebell, tout ça. Je me rends compte que des fois aussi, quand tu es en prépa physique, tu vas proposer, tu vois, je dis de la merde, on va faire de l'épaulé, départ genou. Et il y a un gars qui va, s'il est spécialiste haltéro, il va te regarder, il va dire, mais c'est de la merde, c'est vraiment de la merde ce que tu fais, ton coaching il est pas bon, le placement il est pas idéal. Et en fait, ok, je pense qu'il y a une base quand même, comme tu dis, sécuritaire à avoir, mais moi quand je fais de l'haltéro, je fais pas l'haltéro en fait. J'utilise une
Ouais.
barre que je mets du poids dessus et j'essaie de l'envoyer quelque part avec un vecteur de force, avec une logique d'adaptation derrière, mais je fais pas d'haltéro. Donc en fait, je pense qu'on peut même pas se reprocher, alors sauf si c'est dangereux pour l'athlète, on peut même pas se demander un spécialiste d'haltéro de juger le travail d'un préparateur physique sur ce qu'il propose ou d'un coach sur ce qu'il propose via des outils d'haltérophilie, tu vois, ou même
Non, ouais, non,
kettlebell.
mais ça, je te rejoins. Enfin, même moi, je sais quand t'as mis des stories, des fois j'ai réagi, mais c'était plus en mode bah, pour aussi donner des conseils par
Pour
rapport à
essayer, hein, évidemment.
moi ce que j'avais vu. Le plus important, c'est que déjà, peu importe les mouvements, que ce soit haltéro ou n'importe quel
Ouais,
autre, c'est
ou autre chose, hein, powerlifting.
que la personne soit déjà en sécurité. Forcément, t'es là pour développer les athlètes ou alors bah, prendre soin de la santé des personnes que t'as en coaching. T'es
Ouais.
pas là pour les blesser. Ça, c'est le premier truc. Si tu les blesses, bah forcément, ça remet un peu en cause ton travail, tes trucs. Même si bah des fois, ça peut
Ça peut
arriver. Mais
arriver.
forcément, entre t'as une personne qui se blesse sur un match et t'as une personne qui se blesse sur un épaulé, bah forcément, ça sera pas les mêmes retombées sur toi
C'est
non plus.
clair. Non, c'est évident.
Donc non, à partir du moment où le mouvement est sécuritaire, déjà, je pense que tous les détails techniques sont peut-être moins importants parce que moins tu peux déjà faire travailler la personne. Après, encore une fois, ça va dépendre du temps que tu as à disposition.
Oui.
Nous, ce qu'on cherche en prépa physique, enfin, tu me corriges hein, si je me trompe, mais c'est les adaptations, essayer de faire les mouvements avec une intention particulière. Forcément, tu veux me faire un épaulé pour développer la puissance, mais la personne, elle le fait à 2 à l'heure, ça avance pas du tout. Je te dirais, là, c'est peut-être un peu con.
Ouais.
Alors, par contre, si oui, son mouvement, il est peut-être pas le plus efficient, c'est peut-être pas le plus technique, enfin avec la technique la plus irréprochable possible, mais que derrière, bah, l'intention de tirer la barre le plus haut possible, de mettre un maximum de vitesse et d'explosivité est là, bah, en fait, toi, tu peux justifier, ok, moi, c'est ce que je cherchais. Je
Ouais.
cherchais pas à avoir le mouvement parfait, mais je cherchais à mettre un maximum de vitesse sur une charge bah, qui correspond à la
Ouais,
personne.
évidemment. Ouais, mais je suis d'accord. Et puis du coup, c'est bien parce que tu peux adapter. Moi, c'est vrai qu'il y a des joueurs, ils vont faire de l'épaulé. Il y en a d'autres, ils vont faire juste un tirage haut parce qu'en fait, l'épaulé, le passage, ils n'y arrivent pas et
Bah,
c'est
ça
pas
sera à
efficace.
mobilité
Et...
d'épaule, tout ça, voilà,
Ouais, tu vois, donc
c'est.
c'est adaptable. Et c'est pareil, du coup, souvent, on entend dire, ouais, par exemple, ça m'est déjà arrivé d'entendre ça ou d'entendre des gens discuter de ça, de dire, ok, nous, on met en place un cycle d'haltéro parce qu'on veut développer la puissance. Puis tu vois l'haltéro et puis en fait, tous les gars, ils ont une barre de 20. Et qu'une barre de 20. Mais ils font tous 100 kilos. Et dans ma tête, enfin c'est pas dans ma tête, c'est encore un témoignage que je reprends. Le gars disait, quelle puissance tu développes avec 20 kilos? Alors oui, le spectre force-vitesse, il est large, je peux travailler la puissance même sur un spectre de vitesse max. Mais concrètement, la puissance max ou la zone, le sweet spot puissance, est-ce qu'il va être développé avec une barre de 20 kilos, une technique moyenne et des gars qui font 100 kilos? Et le gars disait, oui, mais je peux pas mettre plus parce que techniquement ça va pas. Oui, mais en fait, fais pas d'haltéro alors. Enfin, tu vois, si l'objectif réel c'est la puissance à court terme, ça ne marchera pas, tu vois.
Et ça, on en revient toujours au même, c'est que si la personne est toujours avec barre à vide, on n'est pas dans un travail de puissance, on est dans un travail
Ouais,
d'apprentissage,
d'éducation.
d'éducation,
Ouais.
qui, dans certains contextes, il n'y a aucun problème,
Il faut le faire et c'est
il
cool.
faut le faire, suivant ce qu'on veut faire. Mais oui, on va pas chercher à développer de la puissance max, je sais pas, imagine chez des rugbymen avec des barres à vide, alors les
Ouais,
mecs, quand ils courent, ils s'envoient des gros tampons. Enfin,
non,
ta
c'est. Faut être
puissance,
réaliste.
ça. Alors oui, on cherche pas un transfert. C'est pas parce que t'épaules 180 kilos que dans ta mêlée,
Oui, c'est vrai.
tu seras le meilleur. Ça veut pas dire ça. Mais c'est forcément au bout d'un moment, bah, il y a quand même quelque chose où ça doit être cohérent. Tu
Ouais.
fais pas de la
Et
puissance.
puis, tu vois, il y en a qui disent ça, oui, le transfert, il est pas. C'est évident que même un mec qui squatte complet à 100 kilos, et tu compares avec un autre qui squatte complet à 60, si ça se trouve, le mec sur le terrain, il sera, celui qui squatte à 60 sera peut-être plus athlétique, en tout cas des. Mais en vérité, enfin, moi, ce que je. Avec ma toute petite expérience, les athlètes qui sont les plus forts en salle de muscu, c'est aussi souvent les plus forts sur le terrain, tu vois.
Oui, c'est ça. Après,
Toute
c'est
proportion gardée.
le transfert. De toute façon, tu peux jamais le calculer, tu peux jamais
Non.
savoir. Comme dit, c'est pas parce qu'un mec squatte cul au sol avec beaucoup de poids qu'il sera non plus très bon sur le
Oui, c'est
terrain.
clair.
En général, c'est un tout. C'est que la personne souvent qui est capable de squatter cul au sol, c'est peut-être quelqu'un aussi qui va chercher à s'entraîner plus, qui veut aller aussi plus loin. Mais ça veut dire
Ouais.
aussi que, bah, par exemple, dans ton sport, le basket, peut-être à l'entraînement, on se donne plus, il y a plus de choses.
Ouais, c'est
Enfin, on
vrai.
peut le voir aussi
Il y a
comme
tout un
ça.
mélange
Mais
dans
c'est
la
sûr
structure.
que si la personne, plus elle a des qualités physiques qui sont développées, bah plus en fait elle peut avoir un
Le potentiel.
potentiel de performer sur le terrain parce que bah en fait elle a ce plus.
Ouais, c'est clair.
C'est comme si
C'est
tu
un
compares,
réservoir et
bah
après,
c'est ça,
voilà.
c'est comme si tu compares une bagnole avec beaucoup de chevaux et une bagnole qui n'a pas de chevaux. Alors oui, tu peux dire c'est pas la bagnole qui fait, c'est le pilote, mais forcément si tu as 200 chevaux
Ouais.
comparé à 50, bah tu es plus avantagé.
Ouais, c'est
Ça veut pas
clair.
dire que tu seras le meilleur,
Ouais, c'est clair.
mais que ça t'aide.
Et tu vois, c'est pareil, il y en a qui vont dire des transferts, tu fais du squat complet, est-ce qu'il y a un transfert sur la détente verticale ou pas? Oui, non. Bah, tu vois, concrètement, moi j'avais un des joueurs du basket, là, Théo, d'ailleurs il écoute, peut-être qu'il écoutera parce qu'il est vraiment intéressé par tout ça. Bah, Théo, on a commencé la saison, c'est un mec qui a de belles qualités génétiques, je pense, il est plutôt musculeux, plutôt explosif, plutôt sec toute l'année, tu vois. Première fois qu'on fait du squat complet, il en avait quasiment jamais fait. Hein. Bon, déjà tous les rapports étaient bons, il pouvait mettre le cul au sol,
Ouais.
très bien placé, il faisait des séries de 10 à 85-90 kg. Et je regarde, je fais, mais what? Et en fait, tu le fais sauter, c'est le gars qui saute le plus haut. Tu le fais sprinter, c'est le mec qui sprint le plus fort. Et tu vas me dire, ah, c'est bizarre, c'est pas du tout le même vecteur, squatter, sprinter. Ouais, mais en fait, c'est bizarre parce que c'est quand même celui qui court le plus vite.
Ouais,
Tu vois?
mais oui, non, mais
Donc en fait.
tout est lié, et c'est sûr que en général, ceux qui sautent très haut ont quand même pas mal de force dans les
Ouais.
jambes.
Après, il y a toujours le contre-exemple de. Tu vois, par exemple, Christophe Lemaître en sprint, j'avais vu une intervention de Jean-Benoît Merin qui parlait de ça. Il disait que Christophe Lemaître, c'est un peu le contre-exemple. C'est un mec qui squatte. Souvent, tu sais, en sprint, c'était des mecs hyper musculeux qui squattaient comme des porcs. Et Christophe Lemaître, c'était un mec qui squattait pas du tout, qui faisait pas de muscu et qui pourtant était très très bon en sprint. Mais parce que justement, lui, tu sais, tu vas chercher plus loin, tu regardes le profil force-vitesse. Et lui, c'était un mec qui avait des hauts niveaux de vitesse quand il courait. Il arrivait à maintenir des hauts niveaux de vitesse, mais il avait pas des hauts niveaux de force. Mais c'est juste que c'est un exemple, mais c'est le contre-exemple parfait. Mais en vrai, 90% des gens, tu augmentes leur force max, ils vont tous progresser après sur le terrain de manière
Bien sûr, c'est
systématique,
ça. Après, c'est de toute façon,
même dans la vie.
t'as tous les systèmes, parce que voilà, là, tu avais peut-être aussi bah, toutes les filières énergétiques, enfin, tous
Ouais,
les
il y a plein de choses.
composantes, enfin, y a tellement de choses, tu peux pas tout vérifier.
Ouais.
Tu as toujours des contre-exemples, de toute façon, partout.
Ça, c'est clair.
Ça, bah, c'est ce que je voyais dans le mentorat de Kev. Hein, il dit, il suffit d'un signe noir pour montrer que tous les signes ne sont pas blancs, tu vois.
Ouais.
Et je pense que c'est vrai, mais maintenant, c'est en règle générale, oui, plus tu as un niveau de force, plus tu vas pouvoir le remettre à disposition dans ton
Ouais.
activité derrière, où ça veut dire que bah, des fois, ok, tu cherches à travailler la vitesse, c'est super, mais il faut savoir freiner fort.
Ouais, c'est clair.
Plus tu as de la force aussi, plus tu as de masse musculaire importante, on ne cherche pas à faire des bodybuilders, de toute façon, on n'en fera jamais
Ouais.
en prépa physique. Ça, c'est souvent les gens disent, ouais, mais si je prends des bras, je vais courir moins vite. Bon, déjà, on va commencer à travailler les bras. Le
Ouais,
jour où tu en auras trop, je pense qu'on aura le temps de
c'est
changer le truc, tu vois.
clair.
Ça, je le vois beaucoup, même
Oh
en
putain,
coaching individuel.
ça
Moi,
m'énerve
je veux pas
aussi.
devenir un bodybuilder.
Oh,
Moi, si j'avais
t'inquiète.
la recette, déjà, je pense
Je serais
que
pas là, gars.
moi, je serais déjà bodybuilder et dans 2 ans, je prends ma retraite, hein, si
C'est
je pouvais
clair.
breveter ça. Mais non, mais
Putain.
voilà, c'est pour dire que bah, c'est pas parce que tu travailles non plus que de la force que. Putain, je sais plus qu'est-ce que je voulais dire. Non, enfin, ouais, c'était pour dire. Bon,
Ah oui, ça a des effets positifs sur d'autres aspects de la performance. Et
ouais,
t'as
c'est
raison,
ça.
tu vois. Par exemple, je sais qu'en sport, moi, tout le travail isométrique et tout pour la réhabilitation, pour la prévention des blessures, mais pour la performance, c'est intéressant. Et jusque-là, j'avais pas compris l'intérêt. Enfin, je l'ai compris il y a quelques mois, mais par exemple, en sport collectif, on pourrait se dire que le changement de direction, l'accélération, c'est principal. Changer de direction, être fort sur l'accélération, c'est un élément qui est hyper important, notamment à certains postes. Et je me disais que travail isométrique, du coup, qui est un travail à l'arrêt, n'avait pas forcément de transfert sur ça. Et en fait, tu vois, en regardant et tout, on se rend compte que quand tu changes de direction, bah, tu as un tempo excentrique, isométrique d'absorption. Et finalement, plus tu vas être fort en isométrie à certaines angulations, plus tu vas pouvoir être fort derrière sur le terrain de manière athlétique. Donc en fait, des fois, on ne se rend pas compte que le travail qu'on fait, il a des effets principaux, mais il a des effets secondaires auxquels on n'a pas forcément pensé, qui sont hyper importants. Donc évidemment, l'idéal serait de bilanter chaque personne de manière hyper précise, niveau mobilité, niveau qualité athlétique. On pourrait même aller voir la myotypologie, voir comment ils sont au niveau musculaire, voir comment ils dorment et tout, un chronotype. En fait, c'est pas réaliste, aujourd'hui on n'a pas les moyens, tu vois.
On peut pas, et puis bah là on pourra rebondir là-dessus après sur la partie business. Bah ça c'est bien si tu as un athlète
Et
et que
voilà.
tu peux tout faire, que tu as tous les budgets, que tu as tout. Mais quand tu en as plusieurs, comment tu fais, comment tu
Exactement.
t'adaptes. C'est toujours pareil en fonction du matériel, du temps que tu as à disposition, des
Ouais.
personnes, comment ils adhèrent aussi aux séances que tu fais.
Ah,
Et des
super.
fois, oui, ta séance sur le papier, c'est peut-être pas la meilleure, mais si tes sportifs, ils adhèrent, je pense que tu auras beaucoup plus de résultats
Ouais, c'est
que, en
clair.
fait, vouloir te dire, ouais, les études ont montré ça, faut faire exactement ça. Si le sportif, il aime pas du tout, ça marche
C'est
pas.
mort. Non, c'est mort, c'est
Pour moi, c'est ça,
complètement
c'est en priorité, c'est faire aussi bah, quelque chose. Alors, faut pas, faut différencier forcément moi, le coaching avec monsieur, madame, tout le monde du sportif pro. Le sportif pro, c'est à son boulot aussi. Donc, des fois, on va pas faire que des choses qu'il aime, mais il faut que tu aies une certaine adhérence. Si t'as
ouais,
pas
bien sûr,
d'adhérence, pour moi,
même.
dans le temps, ça ne
Moi, je pense que tu as raison, et je pense
fonctionnera
que même
pas.
sur les pros, s'il n'y a pas d'adhérence, c'est mort parce qu'en fait, il sera toujours en train de se cacher. Il sera,
C'est
enfin.
ça, c'est que le degré sera peut-être différent par rapport à monsieur,
Ouais,
madame, tout le monde.
oui, c'est vrai.
Mais oui, au bout d'un moment, il faut de l'adhérence. Sinon, la personne décroche, ne va pas se donner à fond.
Ouais.
S'il ne se donne pas à fond en préparation physique, bah, en fait, ça ne sert à
Ça
rien.
sert à
C'est
rien,
que
c'est
oui,
perçu du temps perdu,
tu fais
de
du
la
mouvement, tu
fatigue.
brasses de
Ouais.
l'air, mais.
Non, tu as complètement raison. Et pour revenir sur ça, tiens, on peut parler un tout petit peu de ça. Après, on reviendra sur le côté entrepreneurial et les formations que tu as pu faire et tes projets. Tu vois, avant, on parlait beaucoup, c'est pareil en prépa physique. Je sais que je pense que là-dessus, tu me rejoins aussi. C'est tout le travail autour des notions de pourcentage de force max, etc. Je change un peu de sujet, mais tu vois, il y
Ouais.
a un lien. À notre époque, c'était, tu vas bosser à notre époque. Il y a quelques temps, on parlait encore, tu bosses à 70% de ton max, tu fais des tests de max, tu respectes les tables et tu bosses comme ça. Et moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je bosse quasiment pas avec ça parce que je fais pas de max, parce que j'ai pas le temps, parce que le rapport coût-bénéfice, c'est pas intéressant. Parce qu'il y a d'autres outils, tu sais, il y en a qui utilisent des encodeurs linéaires, enfin la vitesse de barre, il y en a qui utilisent des RPE, des reps en réserve, des top sets. Toi, comment tu vois la chose encore plus avec des personnes lambda, comment tu abordes ça?
Alors déjà, pour faire simple avec monsieur, madame, tout le monde, hein, tout ce qui va être max, déjà t'oublies, hein,
Bah oui.
ça sert à rien, zéro bénéfice, beaucoup trop de risques.
C'est
Je
clair.
pense qu'avec un sportif, c'est pareil.
Ouais, c'est clair.
Si tu veux faire une estimation du 1 RM, à la limite, tu vas lui mettre sur un 3 reps,
Ouais.
tu vas t'arrêter à 3 reps, parce que si tu le mets sur une RM max, forcément, il va chercher à compenser. T'as trop de chances qu'il se pète pour savoir quoi
Ouais, c'est
exactement
clair.
un kilo près sa charge, donc c'est pas intéressant. Maintenant, moi j'utilise pas du tout les pourcentages de 1 RM déjà parce que je les teste pas,
Ouais.
je prends pas le temps et je pense que c'est pas le plus intéressant. Dans certains cas, ça pourrait être bien, tu vois, à la limite en haltéro pour calibrer sur du renfo,
Oui.
sur un squat, tu vois, oui, ça pourrait être pertinent. Maintenant, il y a plein d'autres outils. Moi, c'est vraiment bah, je fais au feeling avec les personnes que j'ai en coaching, on va dire surtout pour monsieur, madame, tout le monde, c'est ok, comment tu te sens?
Ouais.
Est-ce que tu es à l'aise? Déjà, est-ce que le mouvement, la technique, elle est propre? Parce qu'avant de vouloir mettre des poids, on va chercher d'abord à ce que le mouvement soit bien
Oui.
fait. Et ensuite, bah, ok, comment tu te sens? Tu peux en faire un peu plus? Est-ce que tu n'as pas 3-4 répétitions en main? C'est facile. Comment c'est? Je vais essayer de sonder la personne. Et au fur et à mesure, bah, je vais lui rajouter du poids pour trouver la charge. Globalement, en coaching, je vais mettre plutôt entre 8 et 12 répétitions sur cette rangée-là. Là, oui, il ne faut pas faire que du 8-12 reps tout le temps. Mais en général, c'est OK sur certains exercices. Comment tu te sens? Si à 12, elle peut me faire 20 de plus, bon, il y a un problème. C'est que tu es toujours pour. J'appelle ça toujours une série d'échauffement, ce n'est pas une série de travail. Mais je vais me baser beaucoup feeling par rapport à la personne et comment elle se sent. J'ai des personnes aussi qui ne veulent pas mettre plus de poids. Moi, je suis confronté quasiment tous les jours à
Ah
devoir
ouais.
négocier sur les poids.
Ouais.
Bah, si, allez,
Ouais, ils ont peur.
bah ouais, je dis, allez, hop, tiens, on va prendre l'exemple de Camille, j'en ai pas en coaching, mais allez, Camille, tu peux prendre 10 kilos. Ah non, non, je vais prendre 6. Ok, tu tombes sur 8. Mais parce que des fois, si
C'est
le
la
poids.
négociation permanente.
Ouais, voilà, je suis tout le temps en négoce, donc souvent j'anticipe, toi, je vais toujours mettre 4 kilos de plus parce que je sais que ça
Ouais.
tombe de moins. Mais parce que bah, y a des gens aussi, ils ont peur de mettre plus lourd. S'ils mettent plus lourd, ils ont peur que bah, d'un coup ils vont trop se développer, sauf qu'ils n'ont pas envie
Ouais.
de devenir des bodybuilders. Je leur ai dit
Ouais,
plein de fois, ça ne va jamais arriver,
des
mais
croyances limitantes
ouais, il
à
y en a
fond.
beaucoup. Mais du coup, forcément, monsieur, tout le monde, tu dois faire avec. C'est plutôt fun en général, voilà, on fait la
Ouais.
négociation, on arrive. Le plus important, c'est qu'on trouve la bonne charge. Maintenant, après, pour du sportif, moi je travaille beaucoup avec les top 7. Donc voilà, si je regarde avec la personne, je vais lui dire bah, on va chercher un 3 rep max. Bah, ok, tant que tu peux monter les poids, on va monter. On
Ouais.
va chercher du coup un top 7, comme ça tu n'as pas trop de fatigue accumulée. Je trouve que c'est quand même pas mal niveau méthode. Tu peux mettre une grosse intensité sans faire beaucoup de fatigue. Tu ne vas pas chercher un 3x3, 5x3 ou d'autres
Ouais.
protocoles qui prennent plus de temps. Mais c'est bah, ok, on y va. Là, j'avais un footballeur, Antoine, si tu m'écoutes, bah, on faisait du squat. Ok, on monte. On doit chercher un top 7, 3 reps, on dire allez, en quart de squat, voire entre quart et demi. Bah, tant qu'on pouvait monter les poids, on monte. Et après, c'est bah, on fait les 3 reps. Et quand vraiment, tu peux pas faire la quatrième, ok, c'était échec, fin du top 7, c'est terminé. Et on a trouvé le poids du jour. Mais parce que ça dépend. Des fois, plus tu arrives sur des grosses charges, bah, des fois, ça sera peut-être 180 son 3 reps max. Et un autre jour, ça sera 160 en fonction de comment il a dormi,
Ouais, c'est
fonction si
clair.
tu as eu des entraînements. Bon, c'est pour ça les pourcentages de 1 RM, je trouve que
C'est
ça
trop
marche pas.
limitant. Je trouve
Ouais.
que, comme tu dis, en plus, sur un sportif ou même sur quelqu'un de lambda, ça peut le démoraliser s'il n'arrive pas à réaliser ce qu'il était prévu de faire.
C'est ça.
Ça prend beaucoup de temps, comme tu dis, un 5x5. Par exemple, tu vois, moi, en prépa physique, si j'ai 45 minutes de séance et que j'ai un 5x5 à placer, mais gars, la séance est finie quasiment parce qu'il faut un temps de récup qui est important. Parce que,
Tu
bah,
peux
tu vois,
pas.
c'est pas possible. Et du coup, ça se rapproche de la dose minimale effective. Bah, c'est une notion que tu as dû développer pas mal avec K Suisse. Et tu vois, moi, je te rejoins complètement là-dessus. Après, la limite, c'est que je me dis, ok, mais faut pas que la personne, moi, c'est ça aussi avec les sportifs que j'ai, que des fois. Bah, ah, c'est un peu la limite, c'est que je ne veux pas qu'il se cache derrière ça, c'est-à-dire, ah mais je suis pas en forme aujourd'hui. Du coup, en fait, la traîne à long terme, elle progresse pas parce que le gars, il se cache toujours et c'est dingue
Ouais,
que le gars,
non.
il soit investi dans le truc de dire, ok, je mets le meilleur que j'ai aujourd'hui, si c'est un peu moins bien que d'habitude aujourd'hui, ok, mais en vrai, à long terme, faut qu'il y ait du progrès parce que sinon, ça marche pas,
Bah
quoi.
c'est ça, tu vois, moi c'est ce que je faisais avec du coup le footballeur que j'avais en prépa, c'est que ça nous arrivait, voilà, des semaines étaient moins en forme, donc déjà je commençais à questionner, savoir l'hygiène de vie au global, ok, il est moins en forme. Des fois ils sont moins en forme, mais par contre, bah en fait au niveau des perfs, il était présent. Mais en règle générale, de séance en séance, on faisait toujours mieux. C'est que ça nous arrivait deux, trois fois peut-être de devoir diminuer les charges parce que voilà, match plus compliqué, ça a beaucoup de fatigue. Donc c'est pas grave, on adapte, on sait pourquoi on adapte. Mais le plus important, c'est de voir qu'il y a des progrès
Ouais, c'est clair.
de mois en mois. Voilà, chaque fois, bah, on s'améliore, on
Ouais.
avance dans la bonne direction. Et après, ça, c'est moi, c'est peut-être la chance que j'ai de ne pas devoir m'occuper d'un groupe d'athlètes comme toi. Ça, bah, quand je faisais de la prépa aussi dans les clubs, forcément, sur l'individuel, tu vois beaucoup plus si la personne allait à fond ou
Ouais.
pas. Moi, il s'entraînait, il était là, il y avait un objectif. À chaque fois, il se donnait à 100%. Et j'avais cette chance, tu vois,
Ouais, et puis.
qu'il était là pour faire le taf.
Et tu vois, je pense aussi que toi, là, enfin, c'est triste à dire, mais à partir du moment où tu es dans l'individuel et que la personne paye pour tes compétences, elle vient, elle paye, enfin, elle va se donner parce qu'en fait, elle n'est pas là pour perdre son temps.
Bah oui,
Tu vois, alors que moi, j'ai
mais
des sportifs, quoi qu'on en dise, ils sont payés pour être là, c'est leur métier, mais on est dans du sport co et on sait très bien que le sport co, c'est pas forcément la même appétence pour la prépa physique et que ça peut se cacher parce qu'ils préfèrent aller faire le spécifique, enfin, le basket ou le volley ou le hand, peu importe. Et du coup, c'est pas la même relation. Et bah, du coup, t'es obligé d'avoir une relation de confiance hyper importante avec l'athlète pour qu'il te suive à fond. Mais c'est pas les mêmes. Ça se rejoint un peu avec, tu sais, des fois, on compare sport co, sport indiv, et on se rend compte qu'en sport indiv, bah, les gars, ils bossent plus, ils ont plus d'heures d'entraînement, ils mettent plus d'intensité, ils sont plus sérieux sur la nutrition, sur le sommeil, sur tout l'entraînement
Ah,
vie.
bien sûr.
Parce qu'en fait, bah, c'est eux qui ont choisi d'être là. Ils doivent souvent, ils payent eux-mêmes leur matos, ils ont des sponsors, c'est dépendant de leurs résultats. En sport co, on est dans une sphère où c'est beaucoup plus sécurisant. Tu vois, on leur donne un peu un cadre avec un salaire cohérent, on leur donne un peu tout, on les aide, c'est pas les mêmes enjeux du tout.
Ouais, et puis sur ton sport individuel, tu fais pas le taf, tu fais pas de perf.
Il y a ça aussi.
Le sport co,
Il est beaucoup plus
ouais, voilà,
poli,
c'est que même si t'es moins en forme, ton équipe peut faire de
peut
très
faire
bons
le
résultats.
taf, et puis
Alors.
tu peux compenser ton déficit physique sur un jour par un petit peu plus d'habileté motrice, ou tu vois, il y a d'autres, du
Voilà,
cognitif, hein, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu.
non, bien sûr, mais oui, non, ça, je suis totalement d'accord. L'aspect financier, je pense, fidélise et rend vraiment les personnes actives dans leur coaching,
Ouais.
mais que ça soit pour du sportif ou pour monsieur, madame, tout le monde.
Ouais,
C'est que
complètement.
même sur des cours collectifs, j'ai des personnes qui se donnent plus que je pense que certains sportifs en club. Alors,
Ouais.
peut-être pas non plus sur du club pro, mais mine de rien, bah, elles sont là, elles donnent leur max. Alors, oui, leur max, ça n'a rien à voir avec certains max de sportifs, mais on s'en fiche. Elles ont donné le max
Ouais,
que
complètement.
elles avaient. Et moi, c'est le plus important. Moi, c'est ce que je veux. C'est OK, comment t'es aujourd'hui? Bah, on se donne à fond, on
Ouais.
y va. Et par contre, bah, ça arrive aussi souvent. Moi, je le vois beaucoup avec la population générale. Grosse semaine, plein de merde dans ta
Ouais.
journée. Tout ça, t'arrives le soir, t'es fatigué, t'as pas d'énergie. Bah, on va donner le max, mais avec l'énergie que t'as. On va pas chercher à faire plus pour faire plus ou faire
Ouais.
comme la semaine dernière. Justement, c'est, je pense, les bonnes compétences d'un coach, d'un prépa physique, c'est comment tu vas adapter le tout. Le plus important, c'est toujours faire le max avec l'énergie que t'as à dispo.
Ouais, complètement, je suis d'accord. Et puis, tu vois, on retrouve pas mal de choses dans ce sens avec les sportifs pros. Et moi, je me bats un peu contre ça. Cette relation de confiance que tu dois créer avec le sportif, c'est hyper important. Mais comment dire? Souvent, le sportif en prépa physique, il a une vision qui est peut-être un peu négative, c'est-à-dire on va se comparer à l'autre, on va vouloir faire plus, mettre plus de charge que l'autre, ou alors on n'a pas envie de s'entraîner parce qu'on n'aime pas, ou on se cache parce qu'on n'est pas bon sur cet exo. Et je trouve que l'enjeu principal aussi d'un prépa physique et d'un coach, c'est de faire comprendre qu'il n'y a pas de jugement de valeur. Enfin, c'est pas parce que tu mets plus ou moins et c'est plus ou moins bien, que le but c'est surtout de progresser. Et comme tu as dit tout à l'heure, la qualité de mouvement, je pense qu'elle est fondamentale, et je pense qu'on n'est peut-être pas encore assez là-dessus en prépa physique de se dire. Le fondement de tout, c'est la qualité de mouvement, parce que s'il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de transfert, il n'y a pas d'intérêt, tu vois.
Voilà, ça sert à rien. Bah, c'est Kevin qui disait ça beaucoup, qui est suisse. Faut pas faire des reps, faut faire des reps.
Ouais, c'est
Il faut que
clair.
tes reps elles soient qualitatives. Et voilà, c'est tu dois pas toujours te comparer aux autres. Tu peux pas toujours te comparer aux autres. On part pas avec les mêmes bases, avec les mêmes choses. Des fois t'es plus en forme, des fois t'es moins en forme. Plus important, c'est que bah t'essaies de faire ton mieux tout le temps
Ouais.
Et voilà, c'est vrai que souvent, bah, quand on est sur la prépa physique, on va utiliser des charges, donc c'est très facile de se comparer, l'ego lifting,
Ouais,
mais
c'est
comme sur
clair.
les réseaux, hein, quand tu t'exposes sur les réseaux, moi plein de fois je mettais mes séances, ah, tu soulèves que ça,
Ouais.
enfin je m'en fiche, moi mon combat il est contre moi-même, j'ai rien à
C'est clair.
prouver, il y aura toujours quelqu'un qui, même si j'avais un bench à 150, il y aurait toujours un mec pour me dire, ouais, mais moi je bench 160,
C'est
tu vois,
clair.
t'es nul, tu vois, c'est.
Oui.
Donc non, après pour les sportifs, c'est justement leur faire comprendre aussi que le poids, c'est un moyen
Ouais.
d'atteindre, enfin d'avoir les adaptations qu'on veut, mais
Ouais,
c'est
c'est
pas
clair.
l'objectif. Enfin, en tout cas, nous dans notre catégorie, on n'est pas sur des sports où le but c'est pas comme du powerlifting, l'haltéro, où
Oui,
il faut soulever le plus
c'est
lourd.
pas la fin en soi.
Voilà, c'est pas la fin en soi, c'est un moyen, c'est un outil. C'est comme moi ce que je dis aux personnes en coaching, c'est le poids va nous permettre d'avoir les adaptations qu'on veut.
Ouais.
Tu peux très bien faire des air squats. Maintenant, si tu dois faire 70 air squats pour fatiguer tes quadriceps, bah ça serait peut-être mieux de mettre du poids, je sais pas, mettre 10
Ouais, c'est
kilos,
clair.
en faire que 15. Arrive aux mêmes choses et je pense que tu auras plus de
Ouais,
bénéfices en
c'est
faisant
clair.
15 reps qualitatifs que 70 où tu
Ouais,
auras de
c'est.
l'air, tu vois.
Et je trouve que c'est. Ouais, le contre-exemple est aussi vrai. Par exemple, je sais que souvent on assimile le poids à l'intensité, à la souffrance, entre guillemets. Et tu vois, cette année, moi, ça fait un peu rire d'utiliser certains outils qui vont te détruire, entre guillemets. Alors, c'est pas du tout ce mot, parce qu'en prépa physique, le but, c'est
Ouais.
pas du tout de détruire les athlètes. Mais finalement, avec de l'isométrie, poids du corps, split squat, sur 1 minute, 32 minutes, tu mets juste 10 kilos, les athlètes, ils sont en train de mourir, alors que dans leur tête, c'était le squat avec 150 kilos dans l'eau qui allait vraiment être dur. Bah non, en fait, c'est pas ça. Et
Non,
le
non.
plus dur dans la séance, c'était pas ça, c'était le finisher avec ton isométrie
C'est
Yelding,
ça,
là.
l'isométrie, des pelvis raises, des choses comme
Ah
ça. En fait, tu te rends
oui,
compte que
ça,
les
c'est
pelvis raises,
l'exemple
ça,
est encore meilleur. Les pelvis
c'est.
raises, ça, c'est. Ou encore le top du top. Pour moi, les lift-off, genre un truc,
Ouais.
tenir en fin d'amplitude, là. Et
Ouais.
là, ça crampe et tu fais,
Ouais.
ah putain,
C'est
ça.
ça. Quand tu les fais bien, tu préfères faire du squat 3 RM
Ouais, c'est clair.
que
Et là,
certains exos de
ils disent,
mobilité.
putain, et des fois, j'ai des athlètes qui m'ont dit, mais. Putain, mais je viens de finir ma partie mobilité, là, je suis en sueur, je suis crevé. Enfin, je dis,
Voilà.
bah oui, mais en fait.
Mais parce
Mais
qu'en,
si.
mais encore une fois, parce qu'on cherche un développement.
Oui,
Faut différencier, on va pas partir là-dessus, sinon on fera un podcast de 2 heures, mais
oui.
mobilité et mobilisation.
Oui.
Mais
Oui,
c'est comme tout, à
complètement.
un moment, bah, tu dois mettre de l'intensité pour développer. C'est plus facile d'entretenir que de développer, mais c'est pas parce que l'exercice il paye pas de mine. Oui, quand tu fais de l'isométrie split squat,
Ah, ça
oui, ok,
pique.
tu dirais à quoi ça sert, c'est pas ça que tu vas te faire développer tes grandes jambes.
Ouais.
Enfin, tu vas pas développer vraiment ton quadriceps, avoir un
Ouais.
muscle énorme. Mais par contre, derrière, tu peux avoir bah, tes tendons, tes ligaments qui sont beaucoup plus résistants,
Ouais, c'est
tu
bien.
absorbes beaucoup mieux les chocs. Et en fait, bah, t'en as chié. Mais en fait, ça se voit aussi souvent, bah, l'iso, c'est plus pour la réhab, la préhab, de bah, derrière, tu ne te blesses pas. Si
Ouais,
tu ne
c'est
te blesses
clair.
pas, on peut aller plus loin, on peut s'entraîner plus. Et du coup, tu
Ouais,
performes plus. Mais
c'est clair. Mais
c'est.
tout, en fait, tout est lié. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de par exemple, le fait de faire du squat complet. Ça va être hyper important pour développer la force max, mais ça va être aussi hyper important parce qu'on sait qu'au niveau du genou, c'est ça qui fait que tu as un genou en bonne santé. Du coup, c'est du développement athlétique, mais c'est de la prévention. Tu fais de l'iso-yielding, bah, du coup, comme tu dis, au niveau structurel, ça va être important pour les articulations, mais en même temps, tu es meilleur sur l'absorption. Enfin, en fait, des fois, on me demande, ouais, c'est plus de la prévention ou c'est plus du travail de développement. Mais en fait, pour moi, ça veut rien.
Tout,
Enfin,
tout.
évidemment, tu as des objectifs prioritaires, mais tout est lié d'une certaine manière et c'est beaucoup plus complexe que juste dire, ok, là, je fais des petites routines pour la prévention. Ah non, enfin, oui, mais non, en fait, c'est beaucoup plus large que
Ben,
ça, quoi.
oui, parce que moi je pars du principe, si une personne ne peut pas aller en squat complet, c'est qu'il y a un problème quelque part.
Ouais.
Maintenant, c'est pas forcément un problème pour son activité, mais il faut juste être sûr que ça ne devienne pas un
Ouais, c'est
problème pour son
bien.
activité. Parce que normalement, tout le monde peut faire un squat complet, ça veut pas dire mettre 100 kilos ou 200 kilos sur une barre,
Non.
mais certains sont déjà incapables, à poids du corps, de faire un squat complet.
Ouais, c'est
Donc,
clair.
c'est que tu as des limitations, des blocages, maintenant c'est comment, bah, est-ce que c'est important de travailler sur ces blocages? Parce que bah, faut pas que ça nous pose problème, ou alors au contraire, en
Ouais,
fonction de
complètement.
l'activité, on n'en a pas besoin.
Là, tu vois, juste un exemple. Deux exemples. Moi, le premier exemple, c'est moi-même. Je sais que moi, j'ai des chevilles de merde et j'ai des hanches pas ouf. Et du coup, pendant un an, là, je me suis attelé à essayer de bosser mes hanches pour que ça aille mieux. Et puis, j'ai dit, bon, bah, mes chevilles, c'est pas la priorité. Bon, bah, vas-y, je vais mettre des chaussures d'haltéro, je vais mettre une talonnette et ça va m'aider. Et comme ça, mes hanches vont mieux, ça progresse et c'est mieux. Et peut-être qu'un jour, là, c'est pas la priorité aujourd'hui parce que je m'en fous un peu d'avoir un squat complet parfait, etc. Peut-être qu'un jour je passerai du temps, en tout cas pieds nus, je voulais dire, peut-être qu'un jour je passerai plus de temps sur mes chevilles pour faire en sorte que tout l'alignement soit parfait, tu vois. J'ai un
Ah
deuxième
oui.
exemple, c'est que sur les volleyeuses, certaines sont très, comme je disais tout à l'heure, certaines sont super au niveau mobilité, il y a des super rapports, le squat complet c'est pas de problème, et il y en a d'autres, les chevilles ça coince quand même pas mal parce qu'il y a aussi beaucoup d'entorses, souvent avec une réa pas ouf, du coup des restrictions articulaires, et du coup la problématique c'est souvent les chevilles, tu vois, et du coup je mets des cales et je dis ok, on va faire, parce que je veux bosser un squat complet, du coup là ça va, avec une talonnette ça suffit. Et là je pourrais me dire ok, bon bah je bosse pas les chevilles, parce qu'en fait bah, objectivement au volley, la cheville c'est pas, avoir une mobilité de cheville ça peut paraître pas hyper important au premier abord, et en fait tu vois, je voyais un prépa qui parlait de ça, qui sortait des études typiquement sur le volley en plus, qui montrait que au volley le manque de dorsiflexion ça amenait plus de pathologies de chronique au genou, genre tendinopathie. Donc finalement en fait c'est important de t'avoir la
C'est
cheville.
ça.
Et en fait, là, tu dis, ok, bah, ça devient un objectif prioritaire dans un objectif de prévention. Et...
Voilà, c'est
Mais là, c'était adapté du coup.
et après, c'est toujours pareil, comment tu cycles tout, comment tu
Oui,
progresses. Voilà,
évidemment.
c'est très très complexe, hein, la prépa physique. Je pense pas tout connaître, toi non
Voilà, c'est
plus.
trop
On
compliqué,
en
putain.
apprendra toujours. Le plus important, c'est d'être aligné un peu avec ce qu'on fait. Et
Voilà.
ouais, c'est de regarder bah, qu'est-ce que tu axes prioritairement pour développer, parce que tu peux pas tout développer en même temps,
Non,
t'as
c'est
pas tout le
clair.
temps, ça serait trop facile, ça serait idyllique, mais la réalité, elle est pas comme ça. Mais au moins, bah, ça veut pas dire que parce que tu mets des cales, tu vas jamais bosser sa fille, c'est juste que bah, en attendant, comme tu peux pas tout faire,
Ouais.
bah, tu as trouvé l'outil qui te permet de bosser ce que tu veux, d'avoir les adaptations que tu veux,
Non, c'est
mais
clair.
sans oublier que bah, peut-être potentiellement il faudra quand même bosser la cheville ou rajouter des petits exos bah, pour
C'est clair.
déjà lancer on dirait un peu le
Mais
trail
peut-être
là-dessus.
que, ouais, voilà, mais peut-être que sur le moment, la cheville, c'est pas la priorité. Tu vas faire ton squat complet, à côté, tu auras un boulot sur le thorax, parce qu'en fait, c'est là la
Bah, c'est
priorité.
ça.
Et t'as pas le temps, comme dit, t'as pas le temps de tout faire. Après, je pense que t'es comme moi là-dessus. Moi, je suis de plus en plus. Je trouve qu'on appelle ça un système. Moi, j'appelle ça un système concurrent, même si ça veut rien dire, je pense, peut-être. Peut-être de se dire, ok, on sort de l'idée qu'on va faire que de la force max pendant un cycle de 4 semaines, après que de l'hypertrophie, après que de la vitesse, et qu'on peut faire un peu tout en même temps avec des priorités, forcément, avec tes intensités au début de séance, avec bah, c'était un focus sur l'explosivité, sur mais que dans la même séance, tu vas pouvoir faire du boulot sur de la force max et ensuite aller sur du structurel sans que ce soit impossible de tout développer parce que
Non, ouais,
t'as déjà tout.
ça, bah, moi, de toute façon, ça revient sur mon approche d'entraînement. Je pense qu'on a quand même plus ou moins la même. Après, on ne fait pas exactement les mêmes choses, mais non, c'est, tu peux tout développer dans une certaine mesure. C'est juste que tu vas mettre l'accent sur certaines choses et moins sur d'autres. Après, ça sera toujours une question de volume. C'est que, ok, tu peux bosser la force, l'explosivité, tu peux mettre du renfort, des choses comme ça. Maintenant, si sur la force, tu m'as fait un 10x3, puis après, tu me dis que une fois que tu es cramé, mais que tu as quand même fait de l'explosivité derrière et tu as fait, je sais pas combien de box jump, de choses.
Ouais, y a
Enfin,
pas la...
non, à un moment,
Faut
c'est pas
être cohérent
logique.
en fait dans la
Voilà,
programmation.
il faut être cohérent. Tu peux pas tout développer au même niveau tout le temps parce que c'est des choix. De toute façon, c'est. Enfin, que ça soit dans la prépa physique ou moi dans mes coachings aussi individuels, c'est qu'une question de choix.
Ouais,
C'est
c'est clair.
là où tu vas mettre l'accent en fonction de ce que tu as. Et oui, tu peux développer plusieurs choses en même temps. Et pour reprendre ce qu'on a dit au tout début sur les crossfitters, c'est un bel exemple. Alors, ils sont pas tous comme au CrossFit Games, c'est normal, hein.
C'est pas
C'est
tous
les
des Matt
sportifs
Fraser, voilà.
de haut niveau. Hein.
C'est
C'est
les
comme
meilleurs, hein.
les footballeurs, t'as pas que des Ronaldo dans tous les clubs de
C'est
foot. Tu vois,
clair.
c'est la même chose.
Ah,
Mais
c'est
par
clair.
contre, bah, tu peux être très polyvalent et tu peux tout faire. Mais maintenant, c'est comment tu agences le tout, comment tu fais avec les moyens, le temps que tu as.
Ouais,
Et
c'est
ça, je
clair.
pense que de toute façon, c'est l'éternelle question qu'on se posera tout le temps. Ouais,
Ouais, c'est clair. Mais
comment
je
tu
pense
adaptes
que
le
tu
tout, qu'est-ce
vas
que
même
tu fais?
arriver en NBA, en fait, avec les meilleures structures, tu auras toujours cette problématique de
T'auras toujours ça.
moyens, temps, même si tu as une super salle avec le meilleur
Mais parce
matos.
qu'en NBA, ils font 3 matchs par semaine, ils font garder les entraînements tout le temps,
Ouais.
t'as décalage horaire, t'as les trucs.
En fait,
Comment
il y a
tu te
d'autres
démerdes,
enjeux.
tu
Ouais,
vois,
c'est ça.
c'est
Et c'est pareil
toujours.
en coaching individuel, même quand tu auras la plus grande salle du monde avec le meilleur matos, bah, tu auras d'autres problématiques parce que tu seras arrivé à un autre stade de ta carrière. Mais c'est ça qui est enrichissant aussi, c'est de trouver des adaptations tout le temps et de pas être dans le confort, on va dire, de pouvoir faire tout ce que tu veux après.
Voilà, c'est ça. Et puis bah, après, ça revient toujours. Il faut croire en ce qu'on fait. Il faut qu'il y ait du résultat quand même dans ce qu'on fait. Hein.
Ouais,
Le
c'est
but, c'est pas
évident.
juste de faire et dire oui, c'est comme ça qu'il
Ouais.
faut faire. Et derrière, t'as pas de résultat. Et après, voilà, c'est faire les bons choix, savoir aussi, je pense, les expliquer. On oublie aussi un peu trop, mais nos métiers, c'est beaucoup aussi de la pédagogie.
L'éducation.
Moi, c'est ce que je dis aux personnes. Je les rééduque, monsieur, madame, tout le monde. Ils ont plein d'idées reçues sur le sport, sur la nutrition. Je leur
Ouais.
montre qu'en fait, c'est pas si compliqué.
Ouais,
Tu leur
c'est
expliques
clair.
les bases, tu leur montres. Et en fait, il faut donner du sens. Ok, pourquoi on fait ça? Bah, pourquoi on fait ça et pas ça? Voilà, ça doit être assez rapide. Mais il faut dire aussi à la personne qui a envie de savoir.
Ouais, c'est
Après,
clair.
maintenant, après, tu as des personnes, ils sont juste là pour appliquer. Ouais,
Consommer.
voilà, il n'y a aucun problème. Chacun est différent, mais bah, c'est bien de savoir pourquoi on fait les choses. Et si on est capable de les justifier, pour moi, c'est que ça reste cohérent, même si ce n'est peut-être pas le meilleur programme d'entraînement. Mais ça, on l'a toujours dit, même en STAPS, hein, je pense que c'était vrai. Si tu sais justifier tout ce que tu as dans ton programme, bah, pour moi, c'est que ça tient la route. Est-ce
Ouais,
que
je
c'est le
vois.
mieux, pas mieux, qui est là pour juger dans 10 ans, on rigolera de ce qu'on
Ouais.
fait actuellement, c'est normal, on aura évolué, on fera
Ouais,
plus
c'est
les mêmes
clair.
choses. Mais je pars du principe que si tu peux justifier et si c'est cohérent dans ta justification, il n'y a pas de problème,
Ouais, c'est
chacun a sa
clair.
place.
Et tu vois, je reviens sur ce que tu as dit, la programmation avec des objectifs, soit enfin, t'as tes priorités de développement, et tu vois, en préparation physique, finalement, il y a le mythe de la spécialisation, enfin le mythe, c'est pas un mythe, c'est une réalité, c'est le fait d'être spécifique. Je fais de la prépa physique spécifique pour le basket, je fais de la prépa physique spécifique pour le volley.
Ouais.
Et pour moi, ça c'était, quand on était en STAPS, c'était vachement développé. Ensuite, quand on a été en arrivant dans le monde pro, moi, c'est ce que les entraîneurs me disent souvent, c'est ah ouais, moi, je veux de la prépa physique spécifique pour le basket, je veux de la prépa physique spécifique pour ça. Et en fait, à chaque fois, je leur réponds, mais ça veut rien dire. En fait, parce que je fais pas de la prépa physique spécifique pour une discipline. Je fais de la prépa physique spécifique pour un athlète. C'est-à-dire que Toi, Mathieu, si tu fais du basket, toi, Mathieu, si tu fais du volley, ok, c'est une discipline différente, mais c'est surtout toi qui va être le plus important. C'est comment toi tu te comportes, c'est quoi tes problématiques perso, et après on l'adapte pour les disciplines. Mais en vérité, alors je parle des sport co parce que c'est plus mon domaine, la plupart des sport co c'est les mêmes problématiques. C'est courir plus vite, sauter plus haut, changer de direction plus vite. Évidemment, le gardien de but, bon là il a des problématiques un peu plus différentes en termes de mobilité, de
Bien
souplesse,
sûr.
mais.
Mais parce que tu arriverais en fait, le gardien de but, tu peux presque dire que c'est un athlète individuel dans une équipe.
Oui, voilà.
Il joue dans une équipe,
Oui, mais c'est
attention,
vraiment un sport à part.
mais c'est pas les mêmes choses que forcément entre ton arrière et ton
Ouais, c'est
demi-centre
clair.
au hand. Alors oui, t'as toujours
Mais
des.
tu vois, pour comment dire sur ça, moi au basket, on m'a dit au début, oui, regarde, le meneur de jeu, c'est un peu le meneur au rang, et le pivot, ça va être, enfin l'intérieur, c'est le pivot. C'est des gabarits différents, des problématiques de jeu différentes. Le pivot, il va être beaucoup plus sur des positions arrêtées, avec des rotations, etc. Alors que le demi-centre, il va être dans du changement de direction, dans de la vitesse, au rang. Et du coup, la prépa physique devrait être complètement différente d'après certains. Et je suis d'accord sur certains aspects, il faut que ce soit différent. Il y a peut-être des efforts maximaux isométriques sur les postes intérieurs qui sont supérieurs. Mais en vérité, pour moi, l'objectif premier, c'est de développer la force, la vitesse, l'explosivité, parce que c'est ce que tu retrouves en fait, peu importe les postes. Et après, il y a des petits trucs un peu plus spécifiques peut-être à travailler. Mais globalement, que ce soit le meneur de jeu ou l'intérieur, si tu lui développes sa force max, sa vitesse max et sa puissance, et même son hypertrophie dans une certaine mesure, après, certains vont dire oui, force, si tu prends trop de masse musculaire, ça va peut-être avoir des effets négatifs sur
Ouais.
ta puissance relative, etc. Certes, mais en vérité, on est loin d'avoir des athlètes, même en sport professionnel, qui sont à un tel niveau de développement athlétique qu'on peut se poser la question de savoir est-ce que le kilo de plus en masse musculaire va vraiment être déterminant. Tu vois?
Oui, ben oui, bien
Moi,
sûr.
il y a beaucoup de kinés qui me disent ça, ouais, ah non, ce joueur-là, si tu lui fais prendre 5 kilos, ah, mais c'est sûr, il va perdre toute sa vitesse, ce sera plus le même joueur. Déjà, avant qu'on prenne 5 kilos de masse maigre, il y a du boulot. Et
On
deuxièmement,
aimerait tous prendre
ouais,
5 kilos de
c'est
masse
clair.
mec comme ça, tu
Ouais,
vois.
c'est clair. Et puis deuxièmement, en vérité, je suis même pas sûr, tu vois, parce qu'en vrai, quand tu as plus de masse musculaire, tu résistes aussi mieux au contact. En fait, c'est beaucoup. Je pense qu'on des fois, on veut trop complexifier la chose en disant, oh, on va faire du spécifique, hein, et tu te retrouves dans du
Ouais.
n'importe quoi, quoi.
Non mais ouais ça je te rejoins là-dessus. Souvent on veut faire la prépa physique spécifique. On dit voilà il faut que ça soit le plus proche un peu du terrain. Comme tu dis on est loin d'avoir des qualités physiques qui sont déjà trop développées chez les pas chez les athlètes qu'on peut coacher. Et en fait on en revient toujours aux mêmes choses. On doit faire la base. Et ça que ça soit avec monsieur, madame, tout le monde c'est pareil. On doit toujours faire la base. Pour moi tant que la base elle est pas bien faite. On va pas aller se faire chier, aller dans le détail, gratter des pourcentages de trucs. Oui, si une personne a déjà un niveau de force très élevé, on va peut-être regarder pour travailler plutôt l'explosivité, travailler d'autres choses, travailler sa mobilité articulaire, si elle a des limitations. Mais en fait, c'est toujours pareil. Tant que la personne n'a pas une bonne base, bah pour moi, je trouve que ça sert à rien d'aller trop dans le détail.
Bah, t'as raison.
Après, voilà, c'est très contexte dépendant. Mais comme tu dis, moi, tu vois, là, j'avais des basketteuses en prépa physique. Alors, c'était de 12 à globalement 17 ans. Elles faisaient tous un peu la même chose parce qu'en fait, bah, t'avais personne qui sautait. Elles n'arrivaient pas à sauter. Mais parce que, enfin voilà, c'était un petit club aussi. Il n'y a jamais de prépa physique, il n'y a pas eu de choses. Moi, forcément, j'arrive, j'ai pas fait de saut. Là, ça faisait 3 ans que j'avais arrêté le hand. J'ai toujours une très bonne détente verticale. Je continue à la développer, mais eux, c'était le plus important. Tu fais du basket, tu sais pas sauter. Alors forcément, à cet âge-là, on va pas chercher à faire des dunks, mais c'est quand même vachement important qu'elle sache
Oui.
sauter. Au début, je fais des tests. Sans déconner, elle décolle les jambes en détente sèche de 10 cm du sol.
Ouais.
Pour des basketteuses. Alors, sur certaines qui sont très jeunes, je comprends, mais pour moi, t'as 12 ans, tu peux quand même décoller un peu plus, quoi. Et du coup, bah, c'était bah, d'abord, il faut que tout le monde sache sauter. Très peu de personnes arrivaient à avoir des changements de direction très rapides. Bah, tout le monde doit traiter la vitesse. En fait, donc, tu vois, on en revient même sur
Ah,
des
les
âges
petites bases,
différents.
ah, c'est clair.
On arrive toujours à la même base. Alors forcément, si une personne de 12 ans, je ne vais pas faire de la force. De toute façon, je n'ai pas le matériel pour faire de la force non plus. Mais bah, tu dois travailler ta vitesse, tu dois travailler ta plyo, ton explosivité, des changements de direction. Et pour moi, tant que ça, c'est pas acquis, je vais pas chercher à aller vraiment dans le détail technique de le poste, il demande ça, ça, ça. Vraiment aller, tu vois, encore plus dans l'individualisation.
Ouais.
Pour moi, ça, c'est un step encore au-dessus quand la personne a déjà les bonnes bases. Alors forcément, si tu dis que c'est un pivot, par exemple un pivot au hand, et qu'il n'arrive pas à tenir en place, qu'il se
Ouais,
fait bouger dans la
évidemment.
défense, oui, on va peut-être axer le travail différemment au lieu du changement de direction en
Évidemment.
priorité. Ça, c'est normal. Mais à partir du moment où on va dire dans son poste, il est comme OK, bah, on va regarder bah, qu'est-ce qu'on peut faire, travailler, bah, voilà, élever le niveau de force. Mais maintenant que ça soit un demi-centre ou un pivot, si tous les deux ils ont un niveau de force élevé, bah, le demi-centre va pouvoir l'utiliser pour être plus explosif et le pivot pour tenir son bloc.
Ouais, c'est ça.
Ça reste des positions, des choses
C'est clair.
différentes,
Ouais, c'est clair. Moi, tu
mais
vois.
la base de la pyramide est la même, tu vois.
Ouais, je suis d'accord. Et tu vois, on m'a souvent dit, ouais, lui, il faut qu'il soit plus gainé. Genre, le pivot, il est pas assez gainé, il se fait bouger dans tous les sens, c'est parce qu'il est pas gainé. Et moi, ma réflexion, c'était de dire, mais est-ce que c'est le manque de gainage, ou est-ce que c'est juste qu'il est juste pas du tout athlétique, qu'il a pas de niveau de force, enfin, et du coup tu sais, on me disait faut qu'il fasse la planche. Il est pas gainé, t'es, je le pousse.
Ah tiens, ça je voulais tomber sur le sujet,
la
tiens la
ceinture
planche.
Ceinture scapulaire qui tient pas, le corps, c'est dégueu. Ouais. Faut qu'il fasse la planche là parce que là
ouais,
faut qu'il
tienne. Et la planche, 1 minute, 2 minutes,
ouais,
trois
voilà, faut
minutes,
qu'il
quatre
tienne
minutes, ouais,
côté,
c'est.
côté, et ça va lui permettre d'être
Ouais.
plus. Je dis mais mec, on va lui faire un squat, qu'il soit complet ou pas, m'en fous. Avec de la charge, on va travailler sa force max. T'inquiète que le niveau d'activation au niveau du tronc sont largement supérieurs à ta planche, en fait. Donc, on va lier l'utile à l'agréable, on va faire les deux. Ah ouais, tu crois, parce que c'est important qu'il travaille les abdos et tout pour tenir.
Mais c'est toujours pareil en fait, moi ça je le vois beaucoup quand tu fais du gainage. Alors c'est super hein, ceux qui tiennent 2-3 minutes en planche, c'est très bien pour eux. Dans la vie de tous les jours, ça ne sert à rien, je suis désolé, mais ça ne sert à rien.
Ouais, dans le sport non plus, ouais.
Dans le sport non plus, on va reprendre l'exemple du pivot, quand il va se faire tamponner par un joueur, ça va durer combien de secondes? même,
Même pas
même,
une
même pas une
seconde.
seconde. Donc en fait il a besoin d'avoir un niveau de force, on va dire force gainage si on
Ouais.
veut, un gros niveau de force sur le gainage en très peu de temps.
Ouais.
Comment faire de la planche en 1 minute 30 va renforcer
Ouais,
son
c'est
niveau de
clair.
force? C'est toujours pareil, c'est comme si on dit bah tiens, tu veux développer ta force, fais des séries de 70 reps au squat. Mais en fait c'est le même principe. Ok, tu veux faire du gainage, bah si le mec en 20 secondes tu l'emmènes à l'échec sur son gainage, pour moi, là, tu fais un gainage beaucoup
Ouais,
plus
c'est un peu
fort.
plus intéressant.
Au lieu de faire du gainage pendant 1 minute 30, bah, ok, c'est un basketteur, il faut lui 50 kilos sur le gainage et il va tenir 20 secondes.
Ouais.
Mais il va développer un niveau de force dans sa ceinture, la suie abdominale,
Ouais.
beaucoup plus importante. Et je pense que là, le transfert serait plus intéressant que juste faire de la planche.
Ouais, c'est clair. Et en plus, il y a l'idée de transfert, comme tu dis, du mouvement spécifique. Et en plus, alors le seul aspect où je peux me dire que t'as des planches, ça peut être intéressant, c'est peut-être juste de l'éducation au niveau contrôle périnée, transverse, etc.
Bien
Là, pourquoi
sûr,
pas? Mais du
ou
coup,
chez des jeunes, quand t'as pas trop de
ouais,
matériel, des
voilà.
choses comme
Mais
ça,
c'est un
faut
autre
pas
objectif,
bannir.
en fait.
Mais
C'est un autre
oui.
objectif. Et c'est pas. Et du coup, c'est pas les mêmes. Enfin, des fois, certains vont dire, ouais, mais c'est qu'une question de. Enfin, c'est qu'une question de justification. Mais en fait, justement, la justification, c'est le plus important, comme tu dis
Ben
tout à
c'est
l'heure.
ça, c'est que quelqu'un pourrait te justifier que faire du gainage de 1 minute 30 pour le basketteur peut être bien. Après, toi, ça dépend aussi de tes courants, de comment tu fonctionnes.
Oui,
Pour
évidemment.
moi, si le mec n'a zéro gainage, alors oui, c'est peut-être bien. Enfin, normalement, si tu as des gros abdos, tu es censé tenir au moins 1-2 minutes en planche. Ça, c'est
Ouais.
déjà sûr. Mais après, c'est juste comment tu vas travailler. Pour moi, en fait, tu as plus pertinent. En fait, c'est toujours pareil. Il n'y a pas des exercices, il faut dire, bah, il faut faire que ça et pas ça. C'est juste, bah, je pars du principe que souvent, on a tendance à dire, oui, mais ça peut être bien dans tel contexte, dans tel truc. En général, on n'a jamais le temps. Donc, quand tu n'as pas le temps, faut faire au mieux.
Bah,
Donc,
c'est
pour moi, tu
clair.
as plus pertinent que faire 1 minute 30 de
Bah, c'est
gainage.
ça.
Ou alors, bah, pour gagner du temps dans ta séance, bah, moi, je fous 50, 70, 80 kilos sur le dos de la personne sans la blesser, que ce soit en mode sécuritaire. Ça dure 20 secondes, je fais 3 séries, c'est bon.
Ouais,
Je
c'est
l'ai emmené à
clair.
l'échec, tu as bossé, ça t'a pris 1 minute et c'est terminé.
Bah, c'est ça. Et moi, je pense pareil, tu vois. Sachant qu'en plus, dans le sport pro, souvent, la prépa physique, c'est un truc qui est forcément, bah, c'est secondaire, dans le sens où il faut que ce soit le plus court possible, bah, la dose minimale effective. Et vite fait, enfin, clairement, je vais pas passer 5 minutes de ma séance qui dure 45 minutes à faire du gainage statique. Quitte à faire un travail de corps, bah alors je vais faire un truc qui est un peu plus spécifique, et toutes les variantes de Pavlov press, de l'anti-mouvement, de l'anti-flexion, tout ce qu'on veut, tu vois.
Il y a plein de trucs après, et puis de toute façon le gainage on le travaille partout, donc quand
Tout le
tu fais un squat
temps!
tu le
Oui, ça veut
fais, quand
rien
tu vas
dire en
faire
soi.
je sais pas un push press avec un lendemain
Ah
tu vas faire
ouais.
du gainage, enfin tu l'as
Puis bah
partout,
c'est clair. Et
c'est
puis tu vas faire du summiting d'haltéro, il y a intérêt d'être gainé aussi, enfin tu vois.
mais t'as du gainage partout, et ça c'est assez marrant parce que je l'ai vu en coaching en small group que je faisais. En gros je leur fais faire un exercice de gainage sur un GHD, donc des relevés de buste, ils laissent aller en arrière, donc ça fatiguait énormément les abdos pour eux, et après quand ils faisaient des squats au poids du corps, ils sentaient leurs abdos. Et je leur ai déjà dit, mais tes abdos, ils bossent tout le temps. C'est juste qu'ils ne sont pas suffisamment fatigués pour que tu les ressentes. Mais forcément, quand tu fais du squat, tu as besoin d'être gainé. Parce que si tu n'es pas gainé, c'est que tu as un problème technique, c'est que quelque chose ne va pas, ça te posera problème. Normalement, tu es censé être gainé, tu vois. Et c'est là que tu dis, non, le gainage, tu le bosses partout. Après, bah, c'est comme ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Comment tu vas mettre l'accent, comment tu vas le travailler, est-ce que c'est une priorité ou pas. Enfin, voilà, il y a plein de
Ouais, c'est.
modalités. De toute façon, on en revient après toujours à peu près à la même chose. Hein.
Ouais, t'as raison, t'as raison. Surtout que quand tu. Je sais plus ce que je voulais dire. Non, bref, je pense qu'on a fait un peu le tour sur ces questions-là. On est assez d'accord. Après, je pense qu'aujourd'hui, ça, tu vois, ces mentalités-là, que ce soit dans le sport ou dans le tout public, faut réussir à les faire évoluer petit à petit pour que ça aille dans le bon sens, en tout cas.
Ah oui, mais ça c'est important, et après c'est
Enfin bref, on a eu une toute petite coupure, c'est pas très grave, de toute façon, au pire, je couperai au montage, et sinon, je couperai pas, c'est les joies du podcast, c'est aussi ça qui est bien.
C'est le réel.
Ouais, on a fait du coup, quand même, on a parlé de beaucoup de choses. Au final, on vous l'avoue, le projet du podcast, de ce podcast avec Mathieu, c'était aussi d'échanger sur l'aspect entrepreneurial sur lequel il s'est beaucoup investi là pour pouvoir monter son projet à lui, en se formant de manière complémentaire aussi sur d'autres aspects de la prépa physique, de l'entraînement, etc., notamment avec K Suisse, Kevin Ferrara, on a auditionné plusieurs fois depuis tout à l'heure, donc autant qu'on les identifie, qui est un coach suisse qui propose des mentorats, etc., et qui, je pense, on peut le dire, est très compétent dans son domaine. Du coup, là-dessus, on pourra peut-être refaire un podcast dans quelques temps, ou en plus, ce sera peut-être l'occasion d'avoir encore plus d'expérience là-dessus pour pouvoir échanger. On va voir comment s'organiser ça pour essayer de faire en tout cas un deuxième épisode sur l'aspect plus entrepreneuriat et en tout cas business, puisque c'est aussi un truc moi qui me chauffe beaucoup et je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Mais là, ça fait déjà 1h20, donc on va pas essayer de faire, je pense, pour pas que tout le monde
Ouais,
décroche,
non, carrément,
c'est intéressant.
je pense qu'on a
Mais
fait le tour déjà, et non, après, c'était très
c'est intéressant. Il y
intéressant.
aurait 1000 sujets à parler encore, nutrition, comment accompagner un athlète, etc., pour que ce soit le plus efficace possible. Mais en tout cas, c'était déjà hyper intéressant. Merci d'avoir pris du temps pour échanger avec nous. Moi, après, c'était assez facile pour moi parce que je sais que dans la philosophie de travail, je me retrouve beaucoup dans ce que tu fais. Donc, c'est plus facile de parler à quelqu'un avec qui on est d'accord plutôt que l'inverse. Mais je pense que c'est intéressant de voir que le parcours universitaire qu'on a suite à nos, et puis ensuite nos formations, pardon, ça nous amène à être là parce que finalement, enfin, moi, j'ai 24 ans, t'as quel âge? 23?
23, ouais.
Ouais, on est encore très jeune, tu vois. Et c'est aussi ça, je pense qu'il faut qu'on reste curieux pour pouvoir continuer à apprendre. C'est la clé, je pense, hein.
C'est ça, et puis voilà, faut dire aussi, on est encore jeune, il y a plein de choses à apprendre, comme on l'a dit depuis tout à
Ouais.
l'heure, on ne sait pas tout, on ne saura jamais tout,
Ah, c'est
mais on
clair.
cherche toujours à apprendre, faire du mieux qu'on peut, et voilà, on a le même parcours universitaire, mais au final, nos projets pour le moment sont un peu différents,
Ouais.
mais comme on se rejoint sur pas mal de sujets, c'était vachement intéressant d'échanger, tu vois.
Yes. Bon, en tout cas, c'est cool. Vous pouvez retrouver Mathieu sur ses réseaux. Bon, Instagram principalement.
Ouais, c'est ça.
Mathieu Coaching.
Ouais, Mathieu.coaching.
Ouais, bah, je mettrai de toute façon les réseaux en description. N'hésitez pas à aller le suivre et même aller le solliciter s'il y a des besoins d'accompagnement et puis suivre ce qu'il fait, etc. Il est plus ou moins actif par période sur les réseaux en fonction du temps qu'il a à disposition. C'est pareil, on n'a pas parlé de notre entraînement perso, mais c'est pareil, on pourra en reparler. C'est plus un aspect lifestyle, mais je pense que ce sera intéressant aussi. Mais donc n'hésitez pas et on se retrouve pour un prochain épisode. Et encore merci, Matt.
Yes, merci à toi.